With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 370 du podcast Jean Actu. Alain Mathieu, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean en t-shirt rayé. Bonjour Raphaël.
Salut à tous.
Raphaël, t-shirt rayé et son ambulance et travaux, on va vous prévenir un petit peu d'avance. Il risque, puisque vous le savez, on enregistre toujours à distance, c'est normal. Raphaël étant chez lui et ayant beaucoup de travaux et d'ambulance autour de lui, vous risquez d'entendre un petit peu des trucs éventuellement. Voilà, on tenait à vous prévenir, que vous ne soyez pas étonnés. Il est lui dans un silence absolu, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Pour l'instant en tout cas. Salut Alain, bonjour à tous.
Pour l'instant en tout cas. Messieurs, nous allons parler donc de la semaine 6 en NFL qui s'est déroulée. Oui, le Covid ne nous a toujours pas eu. On continue, la sixième semaine c'est dans la boîte. La défense des Buccaneers qui porte Tom Brady et écrase Aaron Rodgers. Les Titans qui font le spectacle, les défenses de Pittsburgh ou de Chicago. Il y a beaucoup de belles choses dans ce débrief et justement c'est parti.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Jingle des années 90. On dirait un peu un son de Nulle part ailleurs, tu sais, ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est libre de droit, voilà. Merci à Kurt Warner, en tout cas, pour ce petit jingle. Buccaneers 38, Packers 10. C'était la première affiche pour nous de la semaine. Les Packers menaient 10-0. Ils semblaient être là pour montrer qu'ils étaient solides et bam, ils se sont fait humilier par la défense des Buccaneers. L'Avante David et Devin White ont donné le ton pour toute la défense de Tampa. Il y a du monde sur tous les niveaux dans cette défense. Il y a aussi deux interceptions. Ndamukong Suh qui a bien embêté Aaron Rodgers comme d'habitude. Messieurs, Bruce Arians avait expliqué il y a plusieurs semaines que son équipe était construite sur la défense et que Tom Brady c'était la cerise sur le gâteau. Et ben, il n'avait pas menti visiblement.
Non, il n'avait pas menti et ça explique d'autant plus pourquoi ils sont allés justement à cette intersaison chercher Tom Brady. C'est parce que Bruce Arians et avec Todd Bowles, son coordinateur défensif, devait avoir la certitude que cette défense allait être armée dès cette année et serait au niveau pour porter assez haut l'équipe et donc ils avaient besoin de ce quarterback d'expérience capable de ne pas faire d'erreur comme Jameis Winston pour enchaîner les victoires. Ça commence pas trop mal cette saison et effectivement, enfin après on peut revenir plus en détail sur la défense et détailler, mais c'était assez impressionnant comme tu l'as dit. Moi je trouve que c'est vraiment tous les niveaux là, aussi bien le front seven que le backfield défensif a fait une très très grosse performance, du blitz à haute intensité, enfin voilà, c'était très complet, donc chapeau, rien d'autre à dire.
Toi qui aimes bien la volonté David et Devin White, là t'as dû te régaler.
Ah bah oui, je les ai pour un peu plus tard pour une autre chronique du podcast, mais oui, moi j'ai adoré la polyvalence parce qu'on les a vus tout faire sur ce match, à la fois aller chercher Aaron Rodgers, à la fois défendre des passes, couvrir les receveurs adverses, enfin ils ont vraiment tout fait, donc c'était beau à voir.
Grégory, 5 sacs, 13 quarterback hits, 2 interceptions. C'est une énorme bonne nouvelle pour Tom Brady et son attaque. Et c'est la confirmation qu'on a une des meilleures défenses de la NFC. Alors, je ne vais pas me risquer à un top temps, mais une des meilleures défenses de la NFC à Tampa.
Oui, oui, très clairement. C'est vrai que depuis le début de la saison, j'avais tendance à être un petit peu plus réservé, notamment sur la défense contre la passe, hein, qui pouvait également concéder quelques big plays par moment quand vraiment le pass rush faisait un petit peu défaut. Mais là, on voit que au fil des semaines, vraiment, c'est une escouade défensive qui devient extrêmement complète. La capacité des linebackers à être pressants sur le jeu à la course, sur le blitz, en effet, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Après, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que ce front seven, il a été capable de mettre à mal l'une des plus grosses attaques de la NFL, avec en plus l'absence toute récente de Vita Vea, hein, leur defensive tackle, qui est out pour la saison. Et en plus, alors, c'est un peu paradoxal, parce que bon, l'une des images fortes qu'on retient, c'est un petit peu la provocation d'Ndamukong Suh avec Aaron Rodgers. Mais un des faits fondamentaux, parce que la défense de Tampa, encore une fois, ces dernières semaines, n'était pas mauvaise non plus. Hein, ils ne partent pas à Chicago à cause de la défense. Mais il y a aussi une question de discipline. On le disait, ils avaient pris 11 pénalités la semaine dernière du côté de Chicago, 0 sur cette semaine-là, et on voit que ça change tout. On voit que c'est un match qui est quasi parfait aussi, parce que du début à la fin, c'est une équipe qui est disciplinée dans son jeu, mais qui est aussi disciplinée d'un point de vue comportemental.
Faut donner des noms quand même, parce qu'on va les retenir pour l'avenir. Ceux-là, Carlton Davis a 4 passes défendues, Jamel Dean a une interception, on a parlé de Devin White et Lavonte David évidemment, Ndamukong Suh un sac, mais lui, vous le connaissez bien. Et puis Antoine Whitfield aussi, hein, qui a 5 plaquages, c'est un joueur drafté très bas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Antoine
deuxième
Whitfield.
Tour. Hein,
ah, deuxième si tour, pardon. J'avais un trou, il était plus haut, autant pour moi, j'inverse. Ça tient ses promesses, en tout cas, ces jeunes défenseurs, notamment Antoine Whitfield, dont on avait parlé à la draft, Greg.
Oui, oui, bah très clairement. De toute façon, le backfield défensif restait un petit peu expérimental. Il y a eu plusieurs années où Tampa cherchait des corners, draftait un ou deux DB par classe, et c'était rarement concluant. Depuis que Bruce Arians est arrivé, en tout cas, il y a la volonté de mettre en place un nouveau groupe. L'année dernière, c'était Sean Murphy qui sortait un petit peu du lot. Cette année, oui, en effet, on voit beaucoup plus Davis et surtout Winfield, dont on savait qu'il y avait un très, très gros potentiel, une capacité à être très polyvalent, free safety, strong safety. Et il démontre cette capacité à bon escient pour les Bucks. Et en effet, si en plus, tu as un front seven qui les expose pas trop et qui leur permet de briller quand il faut le faire, bah là, à ce moment-là, c'est tout bonus pour Todd Bowles et son équipe.
L'autre bonne nouvelle, c'est la ligne offensive. 0 sac encaissé, 17 sur 27, 166 yards et 2 touchdowns pour Tom Brady dans ces conditions, 113 yards au sol pour Ronald Jones. Même Gronk a marqué, ça monte en puissance. Raphaël, c'est encore une fois, je vais insister sur ce 0 sac face à une défense des Packers qui a quand même des pass rushers. Ça aussi, quand même, c'est que Brady, en fait, il est dans les conditions idéales pour l'instant.
Oui, oui, il est placé dans des conditions idéales. Ils avaient déjà commencé à renforcer leur ligne il y a 2-3 années avec des choix comme Donovan Smith et Ali Marpet. Ils avaient fait venir Ryan Johnson au centre l'an dernier, si je dis plus de bêtises, à la Free Agency. Et puis cette année, ils ont drafté Tristan Wirfs au premier tour, et qui a un impact, qui est peut-être le meilleur des rookies au poste de tackle qui a été drafté depuis le début de la saison. Et ça a un impact tout de suite sur cette ligne offensive qui est vraiment très très solide. Et comme tu le dis, elle permet Tampa, qui avait du mal avec son jeu au sol depuis 3-4 ans maintenant, enfin ça remonte vraiment à peut-être la première saison de Doug Martin, hein, la dernière fois que les Buccaneers couraient très bien au sol, donc voilà, quand même on voit que ça marche de mieux en mieux, et cette ligne offensive a clairement sa part là-dedans, donc toutes les conditions sont réunies effectivement pour que Tampa fasse quelque chose cette saison, ouais.
J'ai mentionné Gronkowski, 91 touchdowns pour la connexion Brady-Gronkowski en carrière. C'est la troisième meilleure connexion de l'histoire. Derrière, allez, tiens, petit quiz.
Rivers et Gates, non ?
Alors, Rivers et Gates, ils sont à 90. Ils ont justement été dépassés par Brady et Gronkowski. Donc, il en reste deux. C'est que des retraités, hein, évidemment.
Il n'y a pas Romo Witten ?
Il n'y a pas Romo Witten.
Manning et Clark ?
Alors, Manning et un autre.
Ouais.
C'est le numéro 1 avec un receveur moustachu.
Marvin Harrison ?
Marvin Harrison.
Ah, d'accord.
114 touchdowns, ils sont numéro 1 sur la connexion.
Ah, ok, je croyais que tu parlais juste de connexion quarterback tight end.
Ah, non, pardon, sur touchdown entre un quarterback et une cible.
Bah,
et
Montana une cible. Rice. D'accord.
Et pardon ?
Montana Rice ?
Eh ben non, c'est Steve Young Rice.
Ah, d'accord. Ok.
Ils sont à 92, donc ils pourraient être dépassés par Brady Gronkowski dans les semaines à venir, éventuellement. L'an dernier, les Packers sont bons en saison et s'écroulent contre les Niners en playoff. Là, ils s'écroulent dans un autre match qui était très attendu. Alors, c'était pas les playoffs, mais est-ce que c'est une tendance ou alors est-ce que c'était ce que disait Aaron Rodgers? On s'est vu trop beau, on était trop à l'aise début de saison, il fallait qu'on prenne un coup de pied au derche. C'est ce qu'il a expliqué.
Je suis pas loin de le penser, en effet. J'ai un peu les mêmes impressions saison après saison pour cette équipe des Packers. L'année dernière, et j'en avais parlé la semaine dernière, c'est une des équipes qui me faisait déjà la meilleure impression visuelle sur l'ensemble du plateau. Et pourtant, ça les a pas empêchés de se prendre la porte sur la tronche sur une ou deux sorties de manière assez inexplicable. Alors non pas que Tampa Bay ce soit... La plus mauvaise équipe de la ligue, même si Green Bay me paraissait favori sur ce match-là. Mais en l'occurrence, ouais, là, en l'occurrence, contre une équipe qui était clairement refocalisée. Peut-être que Green Bay s'est vu un peu trop tranquille, justement, en se disant que bah, ça restait une des équipes les plus fringantes en saison régulière, qu'a priori, ils étaient quand même plutôt bien partis pour une qualification en play-off. Si ça peut les reconcerner dès la cinquième ou sixième semaine, en l'occurrence, c'est pas plus mal. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'ils sortaient d'une bye week. Donc, c'est vrai que se retrouver comme ça, à prendre aussi cher quand tu as préparé un match deux semaines à l'extérieur, bon, c'est ce qui pose un peu question. Mais oui, vaut mieux que ça leur arrive maintenant, en effet. Mais c'est malheureusement pas le premier trou d'air qu'on constate sur ce genre de prestations à l'extérieur.
Raphaël, erreur de parcours ou plus quelque chose de plus profond?
Pour le moment, ça va être une erreur de parcours. Maintenant, je suis quand même un tout petit peu inquiet pour la suite. Matt LaFleur, depuis son arrivée à Green Bay, donc c'est 5 défaites. Et sur les 5 défaites, t'en as 4 où les Packers perdent avec plus de 10 points sur l'adversaire. Je trouve que c'est un chiffre qui... 4 défaites de plus de 10 points sur 5. C'est un chiffre qui m'inquiète un peu parce que est-ce que ça ne veut pas dire que Matt LaFleur, quand le plan ne se passe pas comme prévu, il a du mal à trouver les solutions et les ajustements en cours de match? Et je pense notamment, qui nous reste en tête, hein, cette finale de conférence l'an dernier contre les 49ers où il est incapable de s'adapter pendant tout le match et où ils sont dominés de A à Z, ils ne trouvent pas de solution. Là, il commence bien, mais derrière, l'équipe n'est pas capable de réagir, on ne trouve pas la clé. Donc, il en est qu'à 5 défaites en 2 ans, il y a encore du temps pour trouver, mais je trouve que voilà, ces défaites montrent qu'il y a peut-être un petit souci encore, que lui, en termes de coaching, n'arrive pas tout à fait à trouver l'adaptation en cours de match, comme des Bill Belichick, des Andy Reid savent le faire, qui en cours de match sont capables de changer le cours du destin du match par du bon coaching. Lui, pour le moment, tu as l'impression que quand ça marche pas, l'équipe perd et puis on passe à la semaine suivante.
Après, il s'était pas caché, mais c'est vrai que son play calling dans le deuxième carton, il est quand même un peu suspect parce que on va pas dire que le manque de receveurs était peut-être un peu plus criant et que Aaron Rodgers a peut-être voulu remettre Davante Adams un peu trop de nouveau dedans au point de concéder les interceptions un peu fâcheuses et de redonner le momentum fatal derrière à Tampa. Mais ouais, est-ce que alors que le score t'est favorable, ça vaut le coup d'essayer de forcer un petit peu à la passe et d'essayer peut-être et de ne pas essayer de les défier un peu plus au niveau du jeu au sol? En l'occurrence, il y a un Aaron Jones qui est excellent depuis le début de la saison et on n'a peut-être pas tant testé que ça ce run-stop de Tampa, même si le front seven a été dominant de bout en bout, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, Green Bay a aussi donné le bâton pour se faire battre un peu sur cette rencontre, alors que comme Raph le disait, il y a quand même un bon début.
Bon, il faudra attendre de voir, en tout cas, pour savoir si c'est quelque chose de sérieux. On passe aux Titans, 42, Texans 36, 264 yards gagnés au sol, au total, pour Derrick Henry, record en carrière pour lui, 212 au sol, 52 à la réception, un touchdown à quelques secondes de la fin pour égaliser dans le temps réglementaire pour AJ Brown, victoire en prolongation, un superbe match face à un Deshaun Watson qui a tout donné. J'aurais jamais pensé dire ça, mais ces Titans sont quand même sexy cette année. On a quand même des sexy Titans. Parce que franchement, c'était le match le plus enthousiasmant de la semaine.
Oui, écoute, c'est sexy, mais c'est encore plus bluffant. Alors, c'est très perturbant parce qu'ils sont sexy, mais puisque ça va être une des questions principales de ce podcast, j'ai toujours du mal à savoir quoi en penser de cette équipe des Titans. Après le match contre Buffalo, je me suis dit, bon... J'ai peut-être été un peu sévère en termes de jugement. C'est une équipe qu'il va falloir considérer jusqu'au bout, etc. Et là, il y a un match où, en effet, Houston, ils sont un peu plus reboostés, hein, après leur victoire contre Jacksonville, le départ de Bill O'Brien, tout ça, machin. Mais c'est pas un match où Tennessee doit se mettre en difficulté de la manière dont ils se sont mis en difficulté. Donc, ils sont sexy offensivement, mais ils ont toujours ce don également de se mettre dans une position qui, je pense, pourrait leur être fatale quand même en playoff.
T'as des équipes avec lesquelles je te trouve dur cette année, parce que je vois pas. Les mecs sont à 5-0, ils viennent de coller 600 yards, record de franchise. Alors évidemment, la défense a été moins solide, on est d'accord.
Offensivement, ils sont costauds. Bah, 600 yards contre Houston, je veux dire, même si la défense est un peu moins bonne chez les Texans cette année, oui, c'est pas.
Faut les mettre quand même, 600 yards. Je sais que tu regardes le college football le samedi, mais le dimanche, c'est plus dur. Hein.
Encore une fois, moi, je te dis juste une chose, c'est que je suis pas en train de te dire que Tennessee, c'est une équipe qui est surcotée par rapport à d'autres. Hein. Je vais pas te dire qu'ils sont moins bons que des Bears, par exemple, qui ont un bilan plus ou moins équivalent ou quoi que ce soit. C'est pas mon propos. Mais encore une fois, il y a beaucoup de victoires, je trouve, sur le fil du rasoir cette saison. Et c'est pas une question. C'est une question de prendre en compte tous les, d'essayer de contextualiser tout ce qui est mis, tout ce qui est présenté par cette équipe. Et encore une fois, ils gagnent quand même en prolongation contre une équipe qui certes est un peu mieux, mais qui normalement reste à ta portée, même si ça reste un match de division.
Raphaël, est-ce que tu es plus est-ce que tu es plus prêt à te hyper?
Je trouvais les Titans déjà un peu plus costauds il y a 2-3 semaines avant leur grande pause, on va dire. Donc j'avais été encore plus agréablement surpris, on va dire, par la victoire face à Buffalo. Là, effectivement, il y a des soucis en défense, ils prennent des yards, mais en même temps, bon, on est dans une ligue où globalement, à part 2-3 équipes, c'est quand même assez dur de défendre. On voit qu'il y a aucune défense parfaite dans cette ligue. Donc c'est pas terrible, mais je pense qu'il y a quand même la marge et les joueurs pour progresser et améliorer la défense au cours de saison. Ça me paraît pas, il y a quand même du talent dans cette défense. Et puis la grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est quand même l'an dernier on avait des Titans qui pour gagner des matchs étaient souvent autour de 20-25 points, avaient besoin de grosses pertes en défense notamment. Là cette année, ils sont capables de suivre à peu près n'importe qui en attaque. C'est quand même la grosse différence. On a un Ryan Tannehill qui continue sur sa lancée de la saison dernière. On se demandait quand ça allait s'écrouler. Bon, bah pour le moment, ça ne s'écroule pas. Et c'est un joli call play offensif, beaucoup de play action qui marche énormément parce que tu profites de la menace de Derrick Henry pour simuler des courses et puis ça part. Tu gagnes des gros jeux comme ça à la passe. On a un Derrick Henry qui est capable de faire quelques grosses courses et une ligne offensive qui lui ouvre des brèches parce que sa course de 94 yards. C'est sa ligne offensive qui fait la moitié du taf en lui ouvrant un trou énorme. Et derrière, Henry, en deuxième rideau, il a plus que 2 joueurs à battre. Enfin, que 2 joueurs à battre. Hein, mais voilà. Donc, moi, en tout cas, offensivement, je trouve qu'à l'heure actuelle, ils peuvent regarder tout le monde dans les yeux, quoi.
Ouais. Surtout qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs cette saison avec AJ Brown et Corey Davis dans les squads de receveurs.
C'est ce que j'allais dire. Tout le monde va parler d'Eric Henry pour la course de 94 yards, les stats, etc. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment la confiance de Tannehill cette année. Parce que la fin, alors c'est pas une feinte, mais il pourrait mettre le ballon au sol pour arrêter l'horloge. C'est à une douzaine de secondes de la fin. Et finalement, il joue la tentative directement et il envoie AJ Brown au touchdown. Waouh, c'est du très 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 haut niveau, quoi, de faire ça dans l'enchaînement. Ça aurait été un Brady ou un Breeze, il y aurait eu 50 000 replays, 12 000 tweets de la NFL, plus grande tous les temps, il y a que lui qui fait ça, etc. Et franchement, faut saluer, ouais, comme tu disais, Tannehill, ça ne s'arrête pas par rapport à l'an dernier, tant mieux pour eux. C'est vraiment, moi, Tannehill m'impressionne encore plus que Henry, parce que Henry, on le savait plus ou moins, et la confirmation de Tannehill est quand même assez impressionnante. Du côté des Texans, la défense, c'est plus tout à fait ce que c'était. Hein. Pire défense au sol de la ligue, du coup, maintenant 177 yards encaissés par match. C'est la quatrième fois qu'ils laissent un coureur à plus de 100 yards. Ils se sont fait laminer par l'intérieur de la ligne de Tennessee, tu l'as dit, Raphaël. Il reste Deshaun Watson, qui se démène comme un fou. La protection est meilleure quand même. Il prend 2 sacks, il est plutôt bien protégé dans l'ensemble. Et après, il lance 4 touchdowns. Mais il n'y a pas grand monde autour. C'est un peu le Deshaun Watson show, quoi, cette équipe de Houston.
Sourire de Greg. Je vois la moue de Raphaël. Je dis bon,
moue de Raphaël. Yes. Hésitation. Qui y va?
Bah ouais, mais encore une fois, je veux pas faire mon hater, mais oui, est-ce que c'est la ligne de Houston qui est bonne ou est-ce que c'est le pass rush de Tennessee qui était un peu moins tranchant? Je sais pas, mais oui, là en l'occurrence sur ce match-là, bon. En tout cas, il a bien exploité son momentum quand il s'est présenté à lui, parce que voilà, j'en parlais tout à l'heure, hein, Houston, ils étaient quand même plus ou moins au fond du trou quand même. À la mi-temps, ils n'en menaient pas large et ils arrivent quand même à reprendre l'avantage 23-21, à remener encore une fois sur le. Alors, je sais plus qui met le TD, je me demande si c'est pas sur le TD de Will Fuller où il repasse devant à.
Oui, je crois que c'est Fuller.
À 30-28 ou un truc comme ça. Mais enfin. voilà, je veux dire, heureusement, en effet, qu'ils ont ce quarterback-là qui est capable de surmonter beaucoup de choses. Mais bon, ouais, ça fait un peu léger, oui, quand vraiment t'as une défense qui est aux fraises à ce point-là. Et puis bon, on va peut-être en parler, mais moi, il y a des décisions coaching qui sont quand même un petit peu curieuses.
C'est l'instant dilemme. On en a un toutes les semaines en ce moment. Vous avez 7 points d'avance grâce à un touchdown à 2 minutes de la fin. Est-ce que vous tentez la conversion à 2 points pour prendre 9 points d'avance et donc être intouchable, ou est-ce que vous tentez la conversion à 1 point pour avoir 8 points d'avance et donc pouvoir être rejoint par un touchdown et une conversion à 2 points?
Bah écoute, je vais te donner ma réponse tout de suite. Je suis pas sûr qu'on sera de nouveau d'accord avec Raph, hein, mais... mais oui, tu joues l'extra point à 1 point. Encore une fois, après moi je prends l'évidence parce que forcément ça s'est pas passé comme prévu pour les Texans. Mais justement, quand tu as une force de frappe offensive comme celle de Tennessee en face, bah obligé à tenter la conversion à 2 points s'ils ont besoin d'arracher la prolongation. Donc je comprends pas comment sur un match là où tu as autant galéré pour revenir, repasser devant et ne serait-ce que de mener de 7 points, enfin ou même de 8 points en l'occurrence avec l'extra point, tu arrives à donner la possibilité à Tennessee de dire bon bah allez, juste avec un extra point, vous pouvez revenir. Ils n'ont plus grand chose à jouer, mais bon, je veux dire, ça leur coûte quoi de prendre 8 points d'avance? Ils n'ont pas plus de choses
à jouer. Moi, je vais faire une réponse de Normand, les deux me vont.
Ouais.
Moi, les deux me vont. C'est-à-dire que ça ne me choque pas que tu joues pour gagner le match quand tu as une équipe qui est dans la lose.
Moi, j'ai pas compris. Mais bon, après, lose ou pas lose, c'est pas le fait de jouer une conversion à 2 points. Je veux bien que pour la confiance, ça fasse du bien au moral, tu vois, mais bon, dans un match où la défense, ça prend 400 yards, c'est pas le fait de tenter une conversion à 2 points qui va faire, hey, vous avez vu, on a pris 600 yards, mais au moins, on est plein de confiance. Hein.
Ouais, mais tu vois, justement, il sait que sa défense, elle est aux fraises, donc ça ne me choque pas qu'il tente de gagner le match sur une action avec son attaque.
Ouais. Un peu plus sceptique que vous là-dessus.
Raphaël, t'aurais fait quoi à la place de Romeo Crennel?
Bah, je sais pas, comme ça, je serais sans doute parti sur les conversions à 2 points. Hein. Je trouve que ça a plus d'intérêt de vouloir tout de suite gagner le match que de rendre le ballon à l'attaque adverse et risquer d'être battu, surtout d'aller potentiellement en prolongation où finalement la prolongation se décide presque au pile ou face de l'arbitre. Mmh. Donc pourquoi pas. Après, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de mauvais choix. C'est plus une question de philosophie sur le moment, d'intérêt de ce qui te semble le plus pertinent.
C'est vrai que j'ai envie de dire, dans un sens, comme tu as déjà 7 points d'avance, si tu rates la conversion à 2 points, tu perds pas le match non plus.
Non.
Donc, dans un sens, tu peux le gagner. Et après, tu n'as pas eu de bol en prolongation parce que tu n'as pas réussi à les stopper, mais tu avais quand même une deuxième chance en prolongation, en théorie. Donc,
D'ailleurs, j'ai bien aimé la réaction de Dishon Watson sur le coin toss. Hein. Je pense pas que ce soit pour dire oh merde, c'est la défense qui va jouer en premier. Mais bon, ça donne un peu cette impression.
Allez, en parlant de grosses défenses, on passe aux Steelers 38, Browns 7, 5 sacs, 2 interceptions pour Pittsburgh, au moins 3 sacs. Ils ont réussi au moins 3 sacs et une interception sur chacun de leurs 5 premiers matchs. Les seuls dans l'histoire qui l'ont fait, c'est les Giants de 1985 avec Lawrence Taylor. Les Browns, je crois, ont été limités à 1 sur 12 sur 3e tentative. J'ai inversé les stats.
1 ou 3, je ne sais plus.
1.
C'est pas très grave. Oui, pardon.
1, voilà. Bon. Gros match de Bud Dupree avec 2 sacs, énorme défense. On parle tout de suite du point négatif. Devin Bush est touché au genou. Sa saison pourrait être terminée. Est-ce que ça peut les plomber significativement?
Ça va forcément un peu les affaiblir. Il avait un peu endossé ce rôle de, comme on aime à comparer, de quarterback de la défense. C'est lui qui avait le signal radio dans le casque, qui a un peu dirigé certains changements sur le terrain. Donc ça va un peu forcément embêter les Steelers. Maintenant, actuellement, cette défense a tellement d'armes et c'est tellement bien coaché et ça frappe fort, ça va vite dans tous les sens que je pense pas qu'on ait une baisse significative de la défense et qu'elle se retrouve à encaisser 600 yards par match dès la semaine prochaine. Il y a qu'à voir encore la prestation face à l'attaque de Cleveland, qui en plus sortait de bonnes séries, qui avait une ligne offensive qui dominait son adversaire. Là, ça a été dans tous les sens. Ils ont mis vraiment Baker Mayfield, ils l'ont empêché de prendre de bonnes décisions, ils l'ont fait paniquer en permanence. Non, c'est une prestation très très solide. Et quand je vois ça, je me dis que c'est pas un seul joueur qui va changer la face de cette défense personnellement.
Greg, rassuré aussi, enfin, ça va aller.
Ouais, bah en tout cas, quand son remplaçant, Robert Spillane est rentré, ça n'a pas spécialement fait tâche sur ce match-là, hein, même si déjà les Browns paraissaient plus ou moins déjà au fond du trou. Mais oui, je rejoins Raph. Pour l'instant, je ne m'inquiéterai pas plus que ça. Sur des matchs un peu plus couperés, faudra voir. Mais oui, il y a déjà un premier rideau qu'il faut franchir et un pass rush qu'il faut suffisamment maîtriser. Et ça, c'est déjà pas simple pour les attaques.
Tu avais des doutes un peu sur la couverture aérienne de cette équipe, non, Greg?
Des Steelers?
Ouais. Leur defensive back, tout ça, non, t'étais
pas. Bon, pas dans non, mon je confonds. Souvenir. Non, non, non.
Enfin, bon, alors ça va, t'es conquis, défense complète, une des meilleures de la NFL.
Oui, bah oui, bah là, en l'occurrence, oui, c'est sûr. Ce que je soulevais, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y avait un Keith Butler qui était assez contesté au poste de coordinateur. Bon, en tout cas, les ajouts qu'on a mis à sa disposition et les réajustements défensifs, pour l'instant, ont l'air de porter leurs fruits. Donc, voilà, on retrouve la défense dominante de Pittsburgh. Ça continue de laisser du temps, sans trop enchaîner sur ce qu'on va dire après, ça continue de laisser du temps à Big Ben et à son attaque pour continuer de se construire petit à petit. Donc, c'est de bonne augure.
Eh ben, tu peux y aller, hein, Big Ben, 14 sur 22, 162 yards et un touchdown. Ils n'ont gagné que 277 yards en attaque. En effet, c'est pas énorme, mais il y a en effet ce potentiel. L'expérience de Big Ben, le nombre de cibles quasiment illimité à sa disposition avec Chase Claypool qui prend encore 4 ballons dans les airs et qui marque un touchdown au sol, James Conner qui prend encore ses 100 yards au sol, mine de rien. Mm-hmm. Donc il n'y a pas d'inquiétude vraiment, même si elle n'est pas hyper productive, cette attaque des Steelers, Raphaël.
Non, moi, à titre personnel, depuis le début de la saison, de toute façon, elle ne m'inquiétait pas outre mesure, si ce n'est le niveau physique de Big Ben. Pour moi, c'était la grosse interrogation après son année de blessure côté de son attaque. Ben Roethlisberger, avec ses défauts, avec ses qualités, a toujours, depuis qu'il est dans la ligue, fait avancer ses attaques, a toujours fait le minimum, le strict nécessaire pour à ce niveau-là. Donc, je ne m'attendais pas à une catastrophe. Pour le moment, c'est en rodage, voilà, ça joue progressivement, mais avec cette défense-là, ça leur donne justement ce temps-là pour bien se calibrer. Donc non, moi c'est l'attaque à peu près à laquelle je m'attendais en fait finalement des Steelers. Hein. Donc pour moi, elle va monter en régime au fur et à mesure de la saison et on verra un peu plus vers janvier quoi.
Alors parlons un peu des Browns. Est-ce qu'on tombe sur les Browns? Est-ce qu'on dit oh là là, c'est les mêmes, Baker Mayfield n'est pas si bon que ça, il est surcoté puisqu'on a fait le débat dans le fauteuil de dimanche, ou alors est-ce qu'ils sont tombés face à une équipe qui était plus forte qu'eux, que Baker Mayfield avait des problèmes de blessures aux côtes et qu'il a été suffisamment touché visiblement pour que ça le gêne, ou est-ce que c'est évidemment un mélange de tout ça, mais est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes, ou alors est-ce qu'on dit ah bah oui mais c'est les Browns et puis les Browns ils sont retombés, parce qu'ils sont à 4-2 quand même hein.
Ouais, enfin, ça fait partie de ces équipes pour l'instant. Donc, j'ai encore du mal à me fixer sur un niveau vraiment clair et précis. Mais bon, j'en démords pas. Je pense que c'est une équipe qui jouera jusqu'au bout pour les playoffs, même si bon, leurs deux prestations à l'extérieur contre leurs principaux concurrents d'AFC Nord, ça fait un petit peu tâche. En l'occurrence, ils prennent quand même le bouillon et face aux Ravens et face aux Steelers. Après, oui, circonstances atténuantes, forcément, parce que il y a une grosse défense de Pittsburgh dont on a parlé. Je trouve que la O-line également de Pittsburgh, on n'en parle pas suffisamment parce qu'ils ont eu des problèmes de blessures et pourtant, pour l'instant, ça fait plus que le boulot et ça permet justement à Big Ben et à cette attaque de continuer de se développer aussi. Donc face à une équipe qui vraiment maîtrise les tranchées, ça devenait compliqué pour Cleveland qui est globalement solide depuis le début de la saison sur les lignes de vraiment se mettre en évidence. Donc voilà, ça va être le maître mot. Je pense que dès que Cleveland va galérer un petit peu au niveau des lignes, ça peut être un match un peu compliqué. Après, ça ne met pas de côté en effet les choix qui restent un peu curieux de Baker Mayfield quand il a une petite crise de confiance sur un match. Ça peut devenir un petit peu compliqué. On l'avait vu notamment contre Indianapolis où il avait un petit peu relancé les Colts à lui tout seul.
On parlait tout à l'heure de Matt LaFleur. Raphaël, tu disais il n'a pas réussi à s'ajuster. Et je crois que Greg, d'ailleurs, tu le disais un peu aussi. Le problème de quand ça ne va pas, ça ne va pas et on n'arrive plus à maîtriser. J'ai un peu l'impression que cette équipe de Cleveland, elle est un peu sur un fil aussi comme ça d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que tu as des jours où ça va très bien se passer. Alors, on rappelle, il leur manquait Nick Chubb. Donc, ça n'a pas aidé non plus leur jeu au sol. Mais t'as des semaines où tout va bien se passer et puis t'as des semaines où Baker Mayfield lance deux interceptions, Odell Beckham s'énerve sur le bord du terrain et il retombe dans tout ce qu'on craint et t'as l'impression qu'ils sont toujours sur ce fil de rasoir qui pourrait être une très bonne équipe mais que d'une semaine sur l'autre ça va être tout ou rien quoi.
Ouais, il y a un peu de ça. Ça malheureusement je pense que ça vient en partie du coaching qui arrive peut-être pas à tirer le meilleur de ce groupe parce que L'attaque, il manque Nick Chubb et je suis d'accord, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs coureurs de la ligue et je pense que son absence fait beaucoup, beaucoup de mal à cette attaque. Mais malgré tout, quand t'as Jarvis Landry, quand t'as Odell Beckham, quand t'as David Njoku, que les Browns sont incapables d'utiliser depuis deux saisons maintenant, c'est quand même compliqué au niveau du coaching, je trouve, ce qui est fait. Et puis, je pense que Baker Mayfield avait peut-être un peu mal aux côtes, mais je pense qu'il y a un peu un problème qui vient de sa part aussi. À un moment, je pense que le quarterback doit prendre ses responsabilités, d'être un peu le deuxième capitaine du bateau. Hein, quand c'est pas le coach, je pense que le quarterback c'est aussi un peu son rôle. Et là, je trouve que Baker Mayfield, dès que ça se passe mal, il panique. Tout simplement, il panique, il prend des mauvaises décisions et je suis pas sûr que ce soit ses côtes qui fassent prendre des mauvaises décisions. Je pense que ça vient plus du crâne.
Mais tu vois, là où je serais pas un peu en opposition avec toi, c'est que justement, quand tu dis c'est les coachs, etc., qui arrivent pas à tirer le meilleur d'eux, c'est que je commence à avoir des doutes, surtout sur les joueurs, parce qu'au bout d'un moment, les coachs, ils peuvent faire aussi qu'un certain nombre de choses. Et Odell Beckham énervé, Baker Mayfield qui panique, etc., c'était la même chose avec le coach d'avant, etc.
Non, mais c'est vrai. T'as raison. C'est aussi pour ça que j'étais aussi je commençais à taper gentiment sur Mayfield, hein. C'est parce que je trouve qu'après trois saisons dans la ligue, est-ce que vous le trouvez meilleur que lors de son année rookie, après trois saisons?
Non, il est toujours meilleur que l'année dernière.
Oui.
Ouais.
Je suis dans la panade, je l'ai défendu dimanche dans le fauteuil. Alors,
okay, mais après, je te laisse poursuivre, mais c'est pas pour dédouaner Mayfield ou quoi que ce soit, mais faut pas non plus oublier que ça reste des coachs de première année, justement, parce qu'on dit, oui, c'est les coachs changent, mais les problèmes restent. Oui, il faut peut-être aussi qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Et encore une fois, c'est peut-être pas quand tu joues Baltimore et Pittsburgh à l'extérieur que c'est forcément évident de mettre ces choses-là en place. Hein. C'est leurs deux seules défaites de la saison, au final. Hein.
Oui, oui, non.
Donc,
c'est vrai, c'est
voilà,
vrai.
Certes, malheureusement, c'est deux défaites qui exposent dans les grandes largeurs certaines de leurs failles. Mais bon, voilà, il faut aussi peut-être laisser un petit peu de temps, même si, oui, c'est quand même un facteur à surveiller, ces problèmes, en effet, mentaux de Mayfield cette année. Ouais.
Bon, bah, y a encore de l'espoir, c'est le plus important. Petite pause et la suite des matchs.
What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast.
Musique libre de droit réglée, monsieur. Elle était étiquetée comme ça. Les autres matchs de la semaine, on commence avec celui qui a eu lieu lundi à 23h, c'était exceptionnel, entre les Bills et les Chiefs, 26-17 pour Kansas City, c'était sous la pluie, c'était donc un lundi soir, 466 yards à 206 pour les Chiefs, qui se sont appuyés sur un jeu au sol très très costaud et leur défense, une fois n'est pas coutume. C'est une capacité d'adaptation qui pourrait être intéressante pour la suite, ça, quand même, Raphaël, je te vois hocher la tête.
Ah bah ouais, moi c'est ce que j'ai trouvé très intéressant sur ce match et qui me laisse penser que les Chiefs restent les favoris à leur propre succession cette année. C'est l'an dernier, on avait une attaque qui a été championne en basant quasiment tout sur sa capacité à faire des big plays avec ses quatre flèches qui partaient en profondeur et Mahomes qui attendait jusqu'à décocher la cible, on va dire. Là, pour le coup, cette année, ils l'avaient fait sur le premier match de la saison, ils le refont à nouveau, ils sont capables de trouver d'autres solutions parce que justement, Buffalo a essayé de contrer ses big plays en laissant 7-8 défenseurs à chaque fois en couverture aérienne. Les Chiefs ont répondu par l'utilisation de leur coureur rookie en sortie de backfield. Donc, le fait d'être capable de s'adapter, de trouver des solutions pour gagner comme ça, c'est une des top équipes de l'AFC. Moi, ça me laisse penser que c'est une équipe qui est en train de monter progressivement en régime et de trouver l'ensemble des clés et des cartes à jouer pour l'emporter en fin de saison. Donc, je serai fan des Chiefs, je serai assez optimiste pour la suite.
Et là, Greg, tu rajoutes Le'Veon Bell. Ça va faire peur, tout ça.
Oui, alors après, est-ce que c'est le fait d'avoir signé Le'Veon Bell qui a enfin piqué au vif Edward Zeller, parce qu'on sait que ces dernières semaines, c'était pas forcément fabuleux. Là, en effet, oui, il y a quelques ajustements sur la O-line un petit peu nécessaires, parce que je crois qu'il y a quelques petits problèmes de blessures, notamment en cours de rencontre. Hein, peut-être Mitchell Schwartz, il me semble, qui est sorti notamment.
Oui.
Donc des ajustements qui, au final, ont été assez concluants. Après, j'ai quand même la sensation que, je veux pas griller les étapes, mais ouais, que cette équipe de Buffalo perd un petit peu le fil, mine de rien, ces dernières semaines, notamment défensivement. Et on a à peu près la même recette que contre Tennessee, hein. C'est-à-dire qu'il y a un début match qui est relativement honnête pour Buffalo, avec des Bills qui mènent au score, et puis derrière, des deux côtés du ballon, ça commence à se liquéfier et à céder le match petit à petit. Donc c'est un peu problématique, mais en effet voilà, cette attaque de Kansas City, elle a été extrêmement opportuniste, avec notamment un jeu au sol retrouvé. Et ça, s'il y a un jeu à la course capable de dépanner Patrick Mahomes, de toute façon ça va permettre à Kansas City d'être dans le match jusqu'au bout. Et puis en effet, cette défense qui s'est bien reprise contre une équipe de Buffalo, notamment un jeu au sol qui est quand même particulièrement délicat cette année du côté des Bills.
Oui, la défense de Buffalo avait déjà du mal, hein, sur les premières semaines, mais c'est vrai que l'attaque, ça commence à être aussi un petit peu nouveau, hein. Le jeu au sol a été stoppé, Josh Allen est à 122 yards de touchdown, une interception. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter sur le côté, voilà, ça a bien démarré, mais quand ça commence à rentrer dans le dur, avec du froid et de la pluie, après les conditions étaient difficiles.
Ouais, les conditions étaient difficiles pour le jeu de passe. Après, elles expliquent pas forcément la défaillance entière non plus sur le jeu aérien. Oui. Puis à Buffalo, ils jouent quelques matchs tous les ans dans des conditions un peu compliquées, hein. C'est pas non plus pas un dôme.
Ils sont quand même pas habitués à jouer dans la neige, quoi.
C'est ça.
C'est vrai.
Donc en défense, t'as l'absence de Milano au poste de linebacker qui fait beaucoup beaucoup de mal contre le jeu de course et qui se ressent encore. Alors vous me direz, tout le monde a des
extrêmes la patte, hein.
Ouais. Après et en même temps, on pourrait répondre, toutes les équipes de NFL ont des blessés, donc il y a un moment, faut savoir faire avec aussi. Bon, pour le moment, ils ont peut-être pas encore trouvé la clé sans, mais à eux de trouver le fil. Je suis pas encore inquiet pour eux. Je pense que voilà, ils perdent contre le champion.
Ils viennent de perdre contre les deux derniers finalistes de conférence AFC, quoi.
Oui, bon, c'est ça.
C'est vrai. C'est malheureusement, encore une fois, c'est un peu comme Cleveland. Ça les expose un peu. Ça a montré une équipe qu'on pouvait éventuellement envisager comme première équipe de l'AFC. En tout cas, ça fait retomber le soufflet de manière assez spectaculaire. Mais en tout cas. Il y a une remise en question pour Josh Allen. Vaut mieux qu'elle arrive maintenant qu'au mois de janvier, j'ai presque envie de dire.
C'est sûr. C'est sûr. Eagles 28, Ravens 30. Est-ce qu'il est bon, Carson Wentz? Parce que moi, j'ai pas regardé tout le match. Si on regarde le début, je sais pas quelle mi-temps vous avez regardé, mais c'est pas le même joueur, hein. Philadelphie était menée 24-6 au début du dernier quart-temps. Ils ont marqué 3 touchdowns, échoué sur la conversion à 2 points qui aura envoyé le match en prolongation. Du coup, Wentz finit avec une fiche, qui est assez symbolique de son match, puisque c'est quasiment 50-50, 21 sur 40, 213 yards, 2 touchdowns. On fait quoi, avec cette équipe de Philadelphie?
Tu disais, mais je pense que Wentz, il est un peu à l'image de son équipe, un peu, et de cette mentalité underdog.
Des schizophrènes, tu peux le dire.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là. Parce que, enfin, il y a cette deuxième mi-temps où il revient bien, mais en même temps, moi, je suis quand même un peu en tête que les Ravens laissent un peu facilement glisser le match. Enfin, sincèrement, je trouve le score un peu gentil. Je pense qu'il y a plus d'écart que ça entre les deux équipes, et notamment ce que montre la première mi-temps. Après Wentz, alors lui pour le coup, des blessés il en a, hein. Je sais même pas avec qui il joue actuellement.
Tu vois, justement, on a eu la discussion dans la rédaction dimanche soir. Moi, c'est que j'aimerais bien que les Eagles arrêtent de se plaindre de leurs blessés, parce que au bout d'un moment, quand tu ne signes que des mecs qui ont un passif de blessure ou qui sont trentenaires, de toute façon,
T'es dur, parce que même les rookies au poste de receveur qui prennent se blessent.
Ouais, mais au bout d'un moment, c'est Sanders, pas que de la malchance.
Ah non, mais il y a peut-être un problème de coaching staff physique, hein. Ça par contre, ça.
Moi, je suis plus embêté quand on me dit, ouais, mais il manque Alshon Jeffrey, il manque DeSean Jackson, il manque machin, que des mecs qui sont tout le temps blessés de toute manière. Les mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont blessés tout le temps. Donc au bout d'un moment, on signe d'autres gens, quoi.
ou change ta préparation, je veux dire.
Oui, change ta préparation, je pense, surtout. Mais...
Non, mais les mecs, ils sont taqués au mois de décembre, ils jouent jamais les 3 premiers mois et ils ont des hécatombes systématiquement dans les effectifs. Je sais pas, à un moment donné, pose-toi les bonnes questions, quoi.
Mais
je rejoins Raph, c'est sûr que bon, j'en avais parlé, cette équipe de Philadelphie, bon, malheureusement, sur ce genre de match-là, enfin, malheureusement, dans le sens où, malgré l'affiche, tu peux pas forcément dire ça va être une large victoire de l'équipe qui a le meilleur bilan, parce que Philadelphie, de toute façon, c'est une équipe qui sera imprévisible de bout en bout. Donc là, même avec 16 points de retard à 3 minutes de la fin, faut pas les enterrer, en plus contre une équipe de Baltimore qui était très indisciplinée, notamment en fin de match. Forcément, ça les remet dans le bain. Mais je veux dire, après, ils font avec les moyens du bord. Il y a une défense, on critique Jim Schwartz. Moi, je veux bien, hein. Encore une fois, il est pas parfait sur tous les matchs, mais Bon, bah, il fait aussi avec le personnel qu'il a à disposition, avec beaucoup de vétérans surpayés qui n'ont plus forcément le rendement qu'ils pouvaient avoir à une certaine époque. Et puis ouais, l'attaque, c'est vrai que bon, des fois je suis un peu étonné par les lancers de Carson Wentz, mais des fois voilà, on parlait de la panique de Baker Mayfield, je peux comprendre qu'à Carson Wentz lance de manière un peu paniquée quand il se retrouve avec tous les défenseurs de Buffalo sur le dos à chaque fois qu'il lance le ballon, quoi. Donc bon, non, c'est un peu problématique.
C'est le truc qui est frustrant avec Wentz, c'est qu'il y a des fois où il a l'air mauvais, il y a des fois où il a l'air exceptionnel. Donc il y a des actions qui sont incroyables. C'est un des joueurs les plus fun à voir jouer quand il est
dedans.
En fait,
il est tellement dans la démerde. Que ouais, il peut passer du côté magicien au côté, mais c'était quoi ton truc pourri que tu viens de faire il y a deux minutes? C'est ça qui est très perturbant en fait. Ça, mais ça va être Philadelphie tout au long de la saison. Ils peuvent prendre des matchs comme ça. Et c'est pour ça que même si leur bilan est pas extraordinaire dans la NFCS, pour l'instant, pour moi, ils font toujours office de favoris parce que c'est ceux qui dégagent la moins mauvaise impression globale malgré tout.
C'est MacGyver, quoi, Carson Wentz, quand je t'écoute. Il y a un montage à faire pour nos graphistes. est-ce que les Ravens sont moins impressionnants cette année? J'ai l'impression que je les trouve moins tranchants. Lamar Jackson, oui, moins tranchant dans les airs. Il gagne 40 yards de moins par match au sol dans l'ensemble. Il y a toujours des qualités partout. C'est toujours une équipe de haut de tableau. Évidemment, hein, je dis pas que. Mais ils nous ont habitués à du caviar l'an dernier et c'est dur évidemment d'être au même niveau, mais voilà, il y a un truc qui...
Ouais, en attaque surtout, moi je trouve que ça se voit en attaque, hein, forcément.
Oui, parce la que défense est énorme.
L'impression visuelle de l'attaque est vraiment pas la même que l'an dernier. On a tout simplement Lamar Jackson qui est pas au niveau MVP qu'il a pu avoir l'an dernier, hein, donc ça impacte forcément tout le reste. On a un Grégoire Roman, le coordinateur offensif, qui fait un peu moins bien. Je le trouve un peu moins inspiré, moins de courses aussi, hein, dessinées pour Lamar Jackson, un peu moins de courses malgré tout que l'an dernier, et le jeu de passe qui émerge pas. Le receveur rookie de l'an dernier, désolé, j'ai perdu son nom, Marquise Brown, voilà, j'avais un doute sur le Marquise, qui émerge pas tout à fait comme un receveur numéro un encore à l'heure actuelle, qui a pas cette stature là, qui à mon avis aide pas du coup forcément l'attaque de ce côté là.
Il a ni l'attaque ni ma fantaisie, je peux te le dire.
Ouais, j'ai pas de doute là-dessus. Non, mais en tout cas, c'est moins brillant en attaque. Après, je pense aussi que c'est une équipe qui cale un peu sa saison sur décembre, janvier et une montée en progressif. Je serais pas étonné qu'on voit pas tout ce que veulent faire les Ravens un peu plus tard dans la saison.
Après, voilà, c'est peut-être le bon plan aussi. C'est que ça fait deux ans qu'ils roulent sur tout le monde en saison régulière et qu'ils se plantent en playoff. Peut-être qu'ils ont appris de ça aussi et que là, ils y vont plus tranquille.
Moi, je m'interroge quand même sur l'orientation qui a été prise pendant l'intersaison. Parce que oui, en effet, le play call de Greg Roman est ce qu'il est. Il y a le départ de Marshall Yanda qui, on l'a dit, on va le répéter pendant un petit moment, je pense, cette saison, forcément, est non négligeable. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est l'orientation qui a été prise. Et je me demande justement s'il n'y a pas un plan de jeu avec des nouveaux linemen offensifs qui sont arrivés. Je prends l'exemple d'un Tyree Phillips, hein, qui fait le boulot depuis le début de la saison, mais qui est peut-être plus calibré pour de la protection de passe, plus peut-être que pour de la perforation sur le jeu au sol. Et à mon sens, le jeu au sol, il est quand même déjà moins explosif. Ce qui rend cette attaque moins explosive, c'est le fait qu'il y a moins de brèches sur le jeu à la course, parce qu'il y a des linemen qui sont peut-être moins aptes justement à être plus agressifs sur le jeu à la course, parce qu'on a dans la volonté de développer avant tout Lamar Jackson à la passe. Et que pour l'instant, par de nombreux critères, notamment le fait que, hormis Mark Andrews, les receveurs, pour l'instant, c'est pas aussi régulier que ce qu'on aurait pu en penser, même s'il y a des bons rookies qui s'installent cette année. Et ouais, est-ce que cette orientation-là du côté de Baltimore est pas en train de rendre cette attaque peut-être un peu plus quelconque que ce qu'elle était l'année dernière? Mais voilà, ça veut pas dire pour autant que ça va pas finir par trouver le bon rythme et que cette équipe de Baltimore va pas être un client à prendre en playoff.
Patriots 12, Broncos 18, Denver qui gagne sans marquer le moindre touchdown, 6 field goals pour Brandon McManus, Drew Lock qui signe pas un grand retour, du coup 10 sur 24, 182 yards, 2 interceptions. Les Patriots avaient le ballon pour gagner en fin de match, mais ils ont joué sur une quatrième tentative, un match très compliqué pour l'attaque de New England, qui se retrouve à un bilan négatif pour la première fois en octobre depuis 2002. Cam Newton 17 sur 25, 157 yards, 2 interceptions. Il a aussi 10 courses pour 76 yards, et un touchdown, mais ça court pas beaucoup autour de lui, il n'y a pas de cible de qualité. C'est quand même très limité en attaque, hein, du côté de New England cette année.
C'est limité. Puis là, ils arrivent en circonstance après deux semaines où Cam Newton ne s'est pas vraiment entraîné à cause du Covid. Une ligne offensive, il faut le dire aussi, qui avec toutes les blessures a dû réorganiser totalement le positionnement de ses joueurs, puisqu'on a un Isaiah Wynn qui s'est retrouvé garde, on a un Joe Tonnet qui a aussi été décalé. Enfin, donc c'est normalement, attention, hein, je dis pas que ça explique la défaite. Je pense qu'il devait quand même battre ses Broncos malgré tout, et que c'est pas, le résultat est pas tout à fait normal, parce que du côté de Denver t'as aussi plein de blessés. Mais comme le souci des Patriots, c'était l'attaque, avec une attaque complètement nouvelle qu'il fallait, à qui il faut prendre du rythme et tout, te retrouver après seulement 4 matchs à devoir un peu tout rechanger au niveau des schémas, parce que ta ligne offensive n'est plus la même, à Inkilari, le receveur de deuxième année, qui est très très décevant, seulement ciblé 2 fois malgré le fait de jouer quasiment 60% des snaps, enfin, qui n'arrive pas à se démarquer. Et Cam Newton là-dedans, qui nous a pas montré le meilleur de chez lui. Hein. On savait que des fois c'est un quarterback qui perd des ballons. Ça,
c'est Denver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Denver, sans aucun doute. Mais bon, voilà, on savait qu'il perdait des ballons. Il en a toujours perdu, et je pense que ça sera toujours un peu comme ça avec lui. Donc voilà, ces petits problèmes en attaque, c'est là que ça coince, hein, clairement, parce que la défense des Patriots, elle n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce match-là, je vais te dire.
Quand tu prends pas de touchdown, a priori, c'est que tu t'es pas trop mal débrouillé. Surtout dans la NFL actuelle. Grégory, c'est vrai que je trouve... Enfin, je disais qu'il n'y avait pas grand-chose à New England. Edelman est quand même un peu son seul receveur fiable. Si tu enlèves James White, qui est un coureur, officiellement, il n'y a quand même pas grand-chose autour de Newton, qui en plus, là, fait pas un bon match.
Bah, on attendait d'avoir éventuellement la confirmation de ce que pouvait apporter un Damien Harris, qui avait fait une bonne première, mais ouais, qui a été globalement bien muselé. Après, je vais dire franchement, hein, la défense de Denver, malgré les absents, voilà, ça reste à un niveau honnête de ce qu'on en voit. Et j'ai pas de souci avec le fait que l'attaque de New England n'arrive pas à avancer. C'est pas une première, et malheureusement pour eux, je pense que ce sera pas un cas isolé cette année. Ce qui me perturbe beaucoup sur ce match-là, c'est l'exécution. C'est que New England, je veux dire, avec ils ont déjà fait briller un paquet de no-names, etc. Je veux dire, à mon sens, le Patriot West, c'est quand même déjà d'être appliqué dans ce que tu fais. Et c'est quand même assez curieux de voir autant de déchets, des interceptions, le fumble d'Iso. Enfin, il y a quand même beaucoup d'actions où il y a des pertes de balles, des impondérables, si je peux parler ainsi, qui n'ont pas l'air d'avoir été énormément respecté. Au-delà de la question des blessures, voilà, on peut avoir un jour sans. Mais sur un match-là, se dire que tu finis à 6 points dans un match où ta défense a été énorme et où tu as eu un paquet d'opportunités que tu as laissé filer avec des ballons droppés, avec des interceptions un peu grossières, des pertes de ballons en très mauvaise position, c'est ce qui peut laisser des regrets, je pense, à New England, au-delà du casting offensif qui, bon, malheureusement, va être, je pense, une petite plaie tout au long de l'année pour l'équipe de Foxborough.
Bon, pour Denver, ça a bien défendu, ça a bien couru et ils gagnent malgré un mauvais Drew Lock, donc c'est presque prometteur.
Il revenait de blessure aussi, hein.
C'est vrai.
Enfin, il revenait d'une longue absence, en l'occurrence, que Newton n'était pas vraiment blessé, mais ouais, au moins, il les a un peu mis en difficulté, mais bon, il a bien exploité le début de match. Au moins, il a amené les drives qui ont permis de marquer les field goals, c'est ce qu'on peut se dire. Philippe Lindsay aussi qui revient bien de blessure, ça c'est une bonne nouvelle pour eux.
C'est vrai. Raphaël, un truc à ajouter sur Denver ou on passe à la suite?
Non, on peut passer à la suite.
On enchaîne avec les Colts 31, Bengals 27. Les Bengals menaient 21-0, mais Philip Rivers a décidé de donner tort à tous ceux qui se demandaient s'il était cramé, un peu comme nous la semaine dernière. 29 sur 44, 371 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Il lance toujours comme un mec qui viendrait de se démettre l'épaule, mais ça a marché. Ces Colts sont du caractère Mais on a aussi vu que leur défense n'est pas si forte que ça. Parce qu'ils avaient joué quand même du fond de tableau pour gonfler un peu les stats là, depuis le début de l'année.
Ouais, je sais pas. Bah, c'est là où tu vois que Frank Reich, il vient de Philadelphie. Hein. C'est un peu ce qu'ils ont aussi, les Colts, j'ai l'impression, parce qu'ils n'ont pas un début de match où la défense, ils sont pas là, où l'attaque, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis après, bon, bah voilà, DeForest Buckner, il se dit, ah oui, c'est vrai que finalement, en face, il n'y a quasiment personne. Donc, je vais leur marcher dessus sur le reste de la rencontre. Philip Rivers, bon, bah, il lance les yeux fermés. Je vais pas dénigrer la prestation d'Indianapolis. Voilà, ils ont eu le mérite en tout cas d'avoir du caractère et de revenir dans cette partie. Mais la manière avec laquelle Cincinnati s'est aussi liquéfié de l'autre côté, c'est difficilement occultable. Voilà, on va dire que les Colts ont remis les pendules à l'heure dans ce qui était quand même une anomalie d'un point de vue score. Maintenant, ouais, que Philip Rivers donne l'impression de jouer comme Mahomes ou comme Wilson, ça en dit long quand même sur le niveau de cette défense. Qui au passage se prive quand même volontairement de Geno Atkins et de Carlos Dunlap. Donc l'erreur de casting, Zach Taylor continue de se distinguer. Et ouais, donc c'est un peu voilà, c'est une victoire qui fait du bien pour la confiance pour Indianapolis après leur défaite à Cleveland.
Oui.
Mais ouais, ça inquiète aussi sur le niveau des Bengals à mon sens.
Raphaël, est-ce que ça reste une énigme ces Colts? Cette année, ils ont joué les Jaguars, les Vikings, les Jets, les Bears, les Browns, les Bengals.
Tu ouais,
vraiment les étalonner.
Non, mais après du coup, je trouve que ça correspond aussi à peu près à ce qu'on décrit, une équipe qui va battre les équipes moins fortes qu'elle, avec une défense qui a fait des bons matchs contre les attaques faibles de la ligue et qui a aussi des trous d'air par moment. Et pareil, hein, Philip Rivers qui a été capable de se surpasser sur quelques matchs face à des défenses moins fortes. Voilà, c'est une équipe moyenne pour le moment, qui à mon sens est correcte à peu près partout, mais excellente vraiment nulle part en fait. Voilà, enfin tu vois, c'est un peu comme ça que je les vois. Moi, j'ai envie de dire que le bon côté, on en parlait tout à l'heure des coachs pas capables de s'adapter, c'est qu'au moins Reich et Eberflus me semblent être capables en cours de match de trouver des solutions pour changer. Ça, je trouve ça toujours bien malgré tout, d'être capable de changer un peu le cours du match, notamment en défense. On a vu une défense qui a un peu changé ses schémas de couverture, tout ça en cours de match. Donc bon, voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on voyait chez les Colts, hein, une bonne équipe qui battra les plus faibles et qui aura sans doute du mal contre les gros de l'AFC, quoi.
Joe Burrow, 25 sur 39, 313 yards d'une interception. Il lui a manqué quoi cette fois, Greg? Il y a un bon T. Higgins à 6 réceptions, 125 yards.
Bah, il y avait un bon Eddie Green en l'occurrence. Après, bon, il y a peut-être un jeu au sol qui l'a peut-être pas suffisamment soulagé justement dans un moment où Cincinnati devait peut-être jouer un peu plus la montre, justement au moment où les Colts commençaient à prendre un petit peu de momentum. Et puis voilà, j'insiste, hein, y a toujours une ligne qui, quand c'est beaucoup plus compliqué, il me semble que c'est Alex Redmond, notamment le garde, qui a beaucoup souffert, notamment sur la fin de match. Bon, voilà, je veux dire, ça va être la galère jusqu'à la fin de la saison, ouais, comme c'était la galère pour Kyler Murray l'année dernière. Pour prendre son mal en patience pour Joe Burrow, mais bon, malheureusement pour lui et les Bengals, ça passe pas souvent si loin que ça cette année. Je serais curieux de compter, mais je pense que sur leurs 4 défaites, il y en a au moins 3 à moins d'un télé d'écart, donc ça laisse quand même un petit peu de regret.
Dolphins 24, Jets 0, Miami passe devant les Patriots en AFC Est. 3 victoires, 3 défaites, et oui, les Patriots sont 3e de l'AFC Est. Est-ce qu'ils sont bons, ces Dolphins, Raphaël?
En tout cas, ils sont appliqués, j'ai envie de dire.
Je pensais que t'allais dire, en tout cas, ils sont meilleurs que les Jets.
Bah, ça, oui.
Ouais, ça, c'est. Non, mais, typiquement, voilà, c'est les Dolphins, il y a 3-4 ans, ils auraient été capables de perdre un match comme ça face aux Jets moins bons, face à une équipe moins bonne. Là, cette année, ils ont l'air de battre les équipes vraiment moins bonnes qu'eux, ce qui n'était pas forcément le cas pour eux ces dernières saisons. Donc, c'est en ça que je les vois appliqués. Voilà, on a un Ryan Fitzpatrick qui s'éclate globalement dans le jeu aérien. Après, là, sincèrement, l'adversité est c'est tellement le néant que c'est quand même dur de tirer des grandes conclusions sur Miami et leur niveau. Enfin,
Oui. Bon, il y a 110 yards au sol, il y a 2 sacs pour Emmanuel Ogba. En tout cas, ils reconstruisent dans le bon esprit, tu le disais. Mais en effet, il y a quelques petits problèmes de niveau en face. Je crois qu'on est arrivé d'ailleurs au moment de la question pour Grégory. Grégory, est-ce que tu crois que Alabama peut battre les Jets?
Ah bah, vu ce qu'ils ont fait ce week-end contre Georgia, oui, c'est fort possible, monsieur.
Là, je crois qu'on en arrive au moment des questions. Oui. Est-ce que telle équipe universitaire peut taper les Jets? Parce qu'on est quand même dans un désastre absolu. Ils sont en route pour le pire différentiel de points de l'histoire. Ils sont à 2 sur 17 sur 3e tentative. Les coachs s'envoient des remarques qui sont au border insultes bientôt dans la presse. Frank Gore avoue à tout le monde qu'il est désespéré. On est dans une tristesse, mais absolue.
Il y a plus grave, c'est qu'Adam Gase n'est pas au courant que Joe Flacco n'est plus en 2012. Donc, il lui fait lancer 44 ballons quand même. Moi, je veux bien. Oh, hein, mais vache. Bon, c'est. Ouais. Si c'est son plan pour compenser le départ de Le'Veon Bell, bon, bah. Ouais.
Tu vois, même dans le film Titanic, il y a des moments où tu rigoles un peu. Tu souris quand le mec, il tape contre l'aileron, par exemple, en tombant du bateau ou des trucs comme ça. Là, t'as même pas envie de rire tellement c'est triste.
Mais après, malheureusement, c'est. Alors. Le problème, c'est que ça tombe sur les Jets, encore une fois, et que c'est souvent une équipe dont on aime bien un petit peu se moquer. Hein. C'est un peu une proie facile, entre guillemets, parce que forcément, grosse exposition médiatique, tout ça, tout ça. Mais voilà, malheureusement, c'est presque devenu un business plan habituel en NFL. Si tu prends les Raiders, il y a 2 ans, on se foutait de leur tronche, les Dolphins, l'année dernière. Ben voilà. De toute façon, c'est le plan de Joe Douglas. C'est de faire en sorte que de tout raser à la fin de la saison, d'avoir un maximum de joueurs free agent à la fin de l'année, de se débarrasser de tout le monde, de faire la grande braderie, et puis de se débarrasser de son head coach pour repartir de zéro. Donc, de toute façon.
Je vois, Raphaël, que tu hoches la tête, parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord non plus, mais je vais te
laisser. Ouais, j'entends ce que tu dis, et je pense que tu as raison. Le plan final de Joe Douglas, c'est de virer tout le monde et de recommencer à zéro. Ça, sur le fond, je suis d'accord. Après, c'est sur la forme. Moi, les Dolphins l'an dernier, je les voyais pas ridicules comme ça. Les Raiders, il y a 2 ans,
les premières semaines, ils sont catastrophiques, les Dolphins.
Non, mais pas à ce niveau-là. Non, mais là, même en termes d'attitude. Ah non. Alors, même en termes. Là, tu es même sur un record différentiel de points. Personne n'a jamais fait pire dans la ligue.
C'est pas la même attitude parce que c'est un coach de première année. Là, la différence, c'est que c'est un coach qui est plutôt bien installé et dont c'est un secret de polichinelle qui va se faire dégager. Concrètement, c'est quoi l'intérêt de Douglas de garder un head coach dont on sait très bien qu'il le garde uniquement pour le conserver comme fusible en fin d'année? C'est justement pour se laisser un maximum de marge, la possibilité d'avoir le premier choix de la draft et encore une fois de faire le point sur les joueurs qui vont rester plus ou moins fidèles au moment de la galère.
Mais là, tu peux même pas faire le point en fait, parce que les joueurs peuvent pas évoluer sereinement en fait. Enfin, il y a personne qui peut montrer quoi que ce soit.
Alors, c'est quoi son intérêt de garder Adam Gase? Je veux dire, les départs de Quinn et d'O'Brien, ils sont justifiés. Mais je veux dire, comment O'Brien il se fait dégager en ayant un calendrier comme celui qu'il a eu en début de saison et Adam Gase, il est toujours là, on est d'accord. En faisant marcher dessus toutes les semaines.
Greg, moi je dis, c'est pas comparable parce que c'est juste irrationnel ce qui se passe du côté de New York.
C'est tout ce que je dis. Malheureusement, c'est irrationnel dans la gestion du coaching staff, mais je pense qu'il y a également une responsabilité au niveau du general manager puisqu'on laisse les choses faire pour pourrir.
Malheureusement,
c'est devenu un business plan habituel. Alors, encore une fois, oui, Gruden et Flores, pour les exemples que j'ai repris, c'était des coachs de première année, donc annonçaient clairement la couleur. Là, la différence, c'est que c'est plus ou moins la première année du general manager.
Oui, mais
c'est en ce sens que malheureusement, c'est devenu une habitude en NFL. On reconstruit en pétant tout pendant la saison.
Mais
je suis pas d'accord avec toi, comme Raphaël. T'as dit le mot, c'est pourrir. Le problème, c'est que c'est toxique. Les Dolphins et les Raiders, c'était pas toxique comme ça à l'intérieur, avec des coachs qui s'envoient des pics, avec des mecs qui sont désespérés. L'ambiance, parce que là, et je vais reprendre des termes de nos confrères du podcast Around the NFL, notamment sur ce que je l'ai écouté hier, c'est ce qu'ils disaient, c'est que Gase et Williams, ils sont en train d'empoisonner ta franchise. Il faut les enlever maintenant.
Mais maintenant, c'est déjà trop tard.
Ils sont en train d'empoisonner tes joueurs, ils sont en train d'empoisonner tout. C'est un enfer en ce moment.
Certes, mais je ne serais pas étonné que Douglas les garde jusqu'à la fin de la saison en se disant, de toute façon, ça me sert à quoi de changer le head coach, puisque de toute façon, la moitié de mon effectif, je vais le dégager.
Ouais, mais moi je suis d'accord avec Raphaël, t'es en train d'empoisonner une bonne partie de l'effectif.
Ah,
t'es en train d'empoisonner
je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, c'est une mauvaise gestion à tous les échelons.
On parle beaucoup trop d'une équipe aussi mauvaise. il faut qu'on passe aux Panthers et aux Bears. 23-16 pour les Bears. Je me suis résolu à l'avouer, les Bears vont aller en playoff grâce à leur exceptionnelle défense. Faut rendre hommage quand même à ça parce que cette défense elle gagne quasiment toute seule. Ils ont limité les Panthers à 3 sur 13 en 3e tentative, à 1 sur 3 dans la red zone. Ils arrachent 3 ballons. Heureusement, parce que leur attaque est quand même affreuse. Ils sont à 2,5 yards par course, 261 yards au total. C'est dingue d'avoir, ça c'est déjà arrivé, hein, mais d'avoir une attaque qui soit aussi mauvaise que la défense est belle, quoi.
Ouais, c'est déjà arrivé. On en a déjà vu quelques cas dans l'histoire. Mais comme tu dis, la défense a encore fait une grosse prestation. Ils ont été très très bien préparés face aux Panthers, en étant capables d'arrêter ce jeu de passe court de Teddy Bridgewater et de Matt Rhule, en vraiment limitant, cassant un peu ce rythme que les Panthers arrivaient à trouver depuis 2-3 semaines. Ils ont très bien limité aussi Mike Davis, donc match encore une fois très très complet de leur défense et un Nick Foles qui fait un ou deux drives quand il faut, au moment où il faut, notamment il est très bon sur les fins de première mi-temps et fins de deuxième mi-temps. À chaque fois il arrive toujours à aller chercher un touchdown à ce moment-là, histoire de casser une dynamique d'un côté ou de relancer la victoire. Donc écoute, tant mieux pour eux, hein. Juste pour finir, je pense que là pour le coup, Matrou a aussi été un peu trop timide sur ce match. Trois fois il va dans les 10 yards adverses et trois fois il se contente des field goals. Il y a un moment en NFL, enfin moi je pense sincèrement qu'il faut aller gagner en tentant des quatrièmes tentatives sur la goal line et faut aller chercher des touchdowns. Tu peux pas te contenter de 9 points sur des passages en red zone.
Surtout que Robbie Anderson fait pas un mauvais match. Il a pas mal mis en difficulté, je trouve, Jalen Johnson et je pense qu'on n'a pas suffisamment exploité cette carte du côté de Carolina. Après, bon, il y a ce drop un peu cruel pour DJ Moore qui fait quasiment le catch de l'année et puis qui le relâche alors qu'il y avait une excellente position derrière et possiblement un ballon de gagne. Mais oui. Alors, après, encore une fois, je ne vais pas me faire le défenseur éternel des Bears pour rien. Hein. Il y a une défense qui n'était pas parfaite en début de saison, notamment sur le run stop. Ça s'améliore. Je laisse encore le bénéfice du doute en attaque. Je ne serais pas étonné. Après, je ne connais pas exactement la situation d'un point de vue cap. Je ne serais pas étonné qu'avant la trade deadline, Chicago essaye éventuellement de débaucher un coureur, éventuellement, parce qu'on voit que David Montgomery galère un petit peu. Et en plus, avec la blessure de Tariq Cohen, ça retire quand même des options au sol. S'ils arrivent à trouver une option intéressante au niveau du jeu à la course, je demande à voir, ça peut progresser. Après, je suis d'accord avec toi, ça reste quand même un chantier assez vaste. Et bon, pour l'instant, ils se reposent énormément sur leur défense pour gagner les matchs, et tant mieux pour eux.
J'aime bien ce que tu disais, Raphaël, sur Nick Foles, tu sais, dans les matchs, il fait un ou deux drives de temps en temps, notamment en fin de match. C'est un peu à l'image de sa carrière NFL, tu sais, il est moyen, il va sortir la ligue, hop, il fait un bon truc, il reste là, il est moyen, hop, il fait un bon truc pour sauver son boulot et prendre un contrat, et ainsi de suite. 49ers, 24, Rams 16, c'est la semi-surprise de la semaine. Les Rams étaient quand même favoris sur le bilan et avec beaucoup moins de blessés. Finalement, on a eu un grand numéro de coaching de Kyle Shanahan. Pas un seul sac pour Aaron Donald, aucun sac pour les Rams, hein, d'ailleurs. Jimmy Garoppolo touché seulement 3 fois. Le même Jimmy G bien mis en confiance par plein de petites passes courtes qui termine avec une belle fiche de 23 sur 33, 268 yards et 3 touchdowns. En défense, ils prennent que 311 yards et 17 first downs. C'est quand même impressionnant. Ils sont une partie de leur cadre en défense et avec un quarterback dont il fallait reconstruire un petit peu la confiance en attaque quand même.
Ouais, tu l'as dit, moi je trouve ça assez impressionnant le coaching plan de Shanahan, hein, qui montre quand même que c'est un des très très grands esprits offensifs à mon sens dans cette ligue. Ça a été millimétré, rien que sur le premier drive. La stat du premier drive est énorme parce que les 49ers gagnent 86 yards à la passe, alors qu'au final, le drive n'a été que de 74 yards. C'est parce qu'en fait, les passes étaient en arrière et c'est les receveurs qui gagnaient des contacts et des yards après la réception. Donc, et à la fin de la fin, au final, t'as 200, sur les 268 yards gagnés à la passe par Garoppolo, 244 le sont après réception. C'est ces receveurs qui font quasiment tout. Tant mieux pour lui, hein. C'est pas une critique, mais du coup, tout a été mis en place pour faire des petites passes, ne pas prendre la pression d'Aaron Donald et du pass rush des Rams, remettre Garoppolo dans la confiance. Ils ont très bien ciblé le milieu, le centre du terrain ou du côté des Rams. On n'a plus un Corey Littleton qui défend bien. Et du coup, en milieu de terrain, tu as un Garoppolo à 15 sur 16 et 3 touchdowns quand il vise le centre du terrain, un grand George Kittle. Donc...
Oui, ça aide aussi. Hein,
parce que... non, mais c'est sûr que ça aide. Mais du coup...
Il lance sur Doheli, je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes stats. Hein, mais...
non, mais c'est clairement. De toute façon, Kittle est le receveur tight end qui gagne le plus de yards après réception. Voilà, c'est leur modèle. Ça relance très bien Garoppolo. Et donc, on a des 49ers qui... À mon sens, grâce à leur coaching, malgré les blessures, restent dans la course pour les playoffs.
Ouais, mais le retour des skill players en attaque, justement, fait vraiment du bien parce que Samuel et Kittle sont quasiment revenus en même temps. Ils ont eu une petite semaine d'adaptation avec ce bouillon pris contre Miami. Et là, on a senti qu'il y a des recettes qui étaient un peu meilleures. Après, la grosse différence, en effet, c'est cette O-line qui a été une plaie pendant pas mal de semaines. Et là, en l'occurrence, on s'est bien préparé justement face à un test qui semblait en effet d'envergure avec juste le meilleur défenseur de la ligue face à eux. Ouais.
Inquiétude pour les Rams ou pas? Ils avaient roulé sur la NFC Est quand même toute moisie. Et ouais. Black, il y a un test et c'est un peu moins fort.
Bah pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas gagné un seul match contre des équipes hors NFC Est. Donc, on va attendre de tirer des enseignements. Ça reste deux défaites à l'extérieur aussi. Mais ouais, bon, pour l'instant, il fallait pas s'enthousiasmer plus que de raison pour les Rams. Après, je pense qu'il faut pas les descendre non plus. Ils sont en position pour repasser devant pendant un moment avant l'interception notamment de Jason Verrett.
C'est un moment assez crucial. Il y a un match, voilà, je pense que l'échelle Jared Goff a pris du galon, on va dire, cette semaine, ouais, parce ouais. que là, ouais, on est vraiment dans le match où, bon, oui, c'est pas mal, mais ah, ça fait un peu peine à jouir parfois. Donc, bon, voilà, donc c'est une défaite, encore une fois, qui est un peu décevante parce qu'on pouvait s'attendre, en effet, tu le disais, au côté favori des Rams. Ils relancent un adversaire de division, mais bon, les Rams vont être quand même à surveiller jusqu'au bout dans la course pour les playoffs.
Cowboys 10, Cardinals 38. Les Cowboys sont toujours les leaders d'une NFC Est calamiteuse, mais alors ça ne va pas très bien. Ils ont pris un 21-0 dans le second quart et c'était fini. 4 ballons perdus en attaque, 438 yards encaissés en défense. La bonne nouvelle, c'est que ça peut aller que mieux après. Je vous cite quand même Mike McCarthy en conférence de presse. Je vois Raphaël sourire, je ne sais pas si tu l'as vu passer celle-là. Voilà, je pense que notre préparation pour ce match était notre meilleure préparation de cette année. C'est quand même tout sauf rassurant. Est-ce qu'ils sont toujours favoris de la NFCS du coup ?
Oh là.
Ouais.
Je commence à m'inquiéter un peu. Même les Giants et Washington.
Ah, ouais, ouais.
Les traduits en direct.
Bon, oh mon dieu, alerte Covid. Alerte Covid.
Pardon.
Je devrais avoir l'alarme de l'alerte enlèvement de cellules.
Ah, je suis allergique aux mauvaises équipes, pourquoi? En même temps, je supporte Atlanta, pourtant, ouais, je devrais éternuer plus souvent. Mais non, blague à part, non, cette équipe de. Non, oui, non, la déclaration de McCarthy, oui, c'est un petit peu curieux. Et oui, non, même les Giants et Washington commencent à me faire meilleure impression que ce que me propose Dallas ces dernières semaines. Y a des matchs, encore une fois, très troublants, hein, parce qu'ils sont capables d'embêter Seattle, par exemple, jusqu'à la fin de la rencontre. Mais ouais, sur ce match-là, il y a une défense qui est pas bonne, ça on le découvre pas. Et puis il y a surtout un symbole assez flagrant dans cette équipe, c'est Ezekiel Elliott. Je veux dire, je sais que Raphaël a quelques doutes sur son niveau relatif au niveau de la ligne offensive, mais ouais, de là à commettre le nombre de fumbles qu'il commet et à être dans un tel trou au point de se faire bencher au profit de Tony Pollard. C'est quand même assez particulier. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quel casting autour de lui. C'est quand même pas normal qu'un joueur supposément de ce niveau-là, en tout cas, te laisse tomber dans de si grandes proportions. Avec le faible niveau qu'il a depuis le début de l'année, quoi.
Encore un mec de mon équipe fantasy.
Mmh. Ah, bah, tu t'expliques alors.
Déjà perdu 4 fumbles, il en a perdu 2 hein, cette semaine, ouais. Cette année, pardon. Raphaël.
Non, mais c'est un des problèmes parce que, par exemple, sur ce match, bien sûr, la défense de Dallas est encore mauvaise, elle continue à prendre les yards, mais plusieurs fois, elle se retrouve à devoir défendre dès le début du drive dans son terrain parce que tu as aussi cette attaque qui perd des ballons. Donc, il y a un moment déjà que les mecs sont pas bons, mais si en plus tu leur tires déjà une balle dans le pied en les forçant à avoir que 30 yards pour essayer de. Enfin, voilà, donc il y a rien qui aide cette défense à l'heure actuelle, et puis cette attaque. Enfin, j'ai pas toujours été un défenseur de Dak Prescott, mais je pense qu'on sous-estimait peut-être, et notamment depuis le début de cette saison, le niveau de Dak Prescott par rapport à sa ligne offensive, par rapport à Ezekiel Elliott qui était pas bon, et comment en fait Dak Prescott depuis le début de la saison portait vraiment à bout de bras cette attaque. Et je pense sincèrement qu'avec Andy Dalton, les Cowboys ne gagneront pas beaucoup de matchs. Enfin, je pense que, et c'est pour ça que moi je pense qu'ils ont perdu leur statut de favori en NFC. Alors après, au profit de qui, ça c'est une autre question. Mais enfin,
c'est presque malsain de regarder les équipes de la NFC.
Est-ce que Dalton n'a pas cette capacité comme Prescott l'avait à jouer avec cette ligne offensive un peu faible, plus faible en tout cas que par le passé? Et enfin, j'ai du mal à croire par exemple sur ce match que les receveurs de Dallas n'étaient plus capables de créer des séparations comme ils l'ont fait les 4 premières semaines de la saison. Enfin.
Bon, après, il y a très belle défense en face. Hein. Il faut le préciser. Buda Baker fait un très beau match.
Oui,
il y a Patrick Peterson aussi. Hassan Reddick a 2 sacs. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une des bonnes nouvelles pour Arizona quand même de ce match.
Ouais, mais moi, ce qui m'embête un peu par rapport à ça, c'est que côté Arizona, t'as quand même une défense qui manque, par exemple, de cornerback. Donc normalement, ça devait pas. Enfin, à mon sens, Arizona aurait dû avoir plus de mal à suivre Gallup, suivre Cooper, suivre CeeDee Lamb. Or, ça n'a pas tellement été le cas, donc bon, voilà.
J'aime bien quand j'essaie d'être positif pour une équipe et que Raphaël dit non, mais c'est juste que les autres sont nuls.
Ouais, ouais, bon, après, Byron Murphy fait son match aussi à Arizona, hein, donc, de mémoire. Donc, non, il y a un backfield qui n'est pas inintéressant. Et même, bon, en tout cas, c'est bien meilleur de ce qu'on voit d'Arizona. Je te rejoins, Alain, par rapport à ce qui posait problème l'année dernière, parce que la défense de Van Joseph se faisait un petit peu ouvrir dans les grandes largeurs. Donc là, oui, en effet, il y a du mieux, mais bon, il y a un Kyler Murray qui fait le boulot, on va dire, pour l'instant, bien aidé par un jeu au sol, en l'occurrence, sur ce match-là. J'attends encore d'être convaincu à 100%. C'est pas une simple victoire, entre guillemets, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est pas juste la victoire à Dallas qui va m'amener à changer mon jugement totalement sur le niveau d'Arizona depuis le début de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne fiche de 4-2 pour se tirer la bourre jusqu'au bout pour les playoffs.
Et contre Kenyan Drake court, ça simplifie tout. 164 yards encore pour lui dans ce match. Vikings 23, Falcons 40. Vous savez qui est le remplaçant de Kirk Cousins ou pas?
Moi, je sais.
Ah oui, j'ai vu passer.
C'est Sean Mannion.
Sean Mannion.
C'est Sean Mannion, voilà. C'est sûrement pour ça que Kirk Cousins est resté en jeu après ses trois premières interceptions.
Oh, t'es méchant. Bon quarterback. Ah, Oregon State.
Ouais, attends, il peut pas dire qu'il a pas de receveur, Kirk Cousins, puisque Justin Jefferson fait plus que combler le départ quand même de Stephon Diggs pour l'instant. Il est encore à 166 yards et 2 touchdowns. Et je crois qu'il est déjà à plus de 500 yards, hein, le garçon. Pour les Falcons, qu'est-ce qu'il y a?
Bah non, mais juste, j'allais dire, tu vas taper sur Kirk Cousins s'il est tombé sur une des nombreuses équipes schizo de la ligue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors voilà, j'allais dire, ça allait beaucoup mieux pour les Falcons.
Meilleure défense de la ligue. Bah écoute, il y a les Steelers, il y a les Bears, il y a les Falcons.
Qu'est-ce qui s'est passé? 3 interceptions en première mi-temps, 19 minutes de possession pour Minnesota. Qu'est-ce qui s'est passé, Greg, dans cette défense d'Atlanta?
Ah bah écoute, c'est un staff qui a tout changé. Mais à chaque fois, mais ça fait plusieurs années que c'est le cas. Hein. Encore une fois, l'année où Atlanta va au Super Bowl, ils sont, on va dire, au milieu du panier lors de la bye week. Et après, il y a des changements au niveau du coaching staff où l'équipe se transforme. Bah, visiblement, je sais pas. De toute façon, ça fait, je sais pas combien de temps que je le répète, le problème dans cette équipe, il est mental. Et on voit que dès qu'il y a un petit électrochoc, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, encore une fois, hein, ils vont peut-être finir, ils voulaient pas de Trevor Lawrence, je pense. Ils veulent finir à 5-11 ou à 6-10. C'est tout ce que je leur souhaite. Pour repartir, comme disait Alain, avec le futur garde titulaire dans la prochaine draft. Mais non, blague à part, non, c'est sûr que il y a un électrochoc et malheureusement, ça peut laisser des regrets quant au fait de se dire est-ce qu'ils ont pas gardé Dan Quinn trop longtemps? Parce que pour moi, ils auraient dû le dégager après Chicago à partir du moment où tu voyais que l'équipe ne répondait pas. Et malheureusement pour Arthur Blank, le propriétaire, c'est un aveu terrible parce que ça veut dire en effet qu'avec l'équipe que t'avais, t'as moyen de faire mieux. Minnesota, c'est pas le top du panier cette année. Mais les dominés, de la manière dont ils les ont dominés, quand on voit que Minnesota, ça va mieux ces dernières semaines, ça en dit long, encore une fois, sur la manière dont cette équipe était coachée et surtout gérée et préparée.
Ah bah Arthur Blanc, il le savait pas, mais Raphaël et moi, on les pronostique au Super Bowl depuis 3 ans, donc si tu veux, on savait qu'il y avait du matos, quoi.
On savait qu'il y avait de quoi faire, quoi. On
peut-être
croyait,
pas mais... jusqu'au Super Bowl, mais bon, au moins, t'as moyen de te tirer un peu la bourre pour les playoffs, quoi. Donc, malheureusement, c'est un peu trop tard, quoi.
Bon, ça faisait plaisir, quand même. Matt Ryan et Julio Jones, ils sont rentrés sur le terrain, ils ont dit, c'est quoi, on est en 2015? Ok, allez, ça marche.
Non, mais je me suis dit, mais rien que la défense. Je veux dire, sur chaque jeu, les mecs, c'était des morts de faim. J'ai vu Dante Fowler rusher le quarterback.
C'est vrai que ça,
c'est possible. Et JTRL faire une interception, je veux dire, on peut se prendre à rêver. On va faire 11-5. Allez,
on est pas mal dans le chrono. On va passer au suivant. À part si Raphaël, tu veux rajouter un truc, mais je crois qu'il a dit pas mal de choses sur Atlanta. Où es-tu rassuré?
Non, mais ça ressemble aux Falcons un peu plus que moi ce que j'attends depuis quelques temps, depuis 2 ans, 3 ans maintenant en début de saison. Donc tant mieux. Après. Les Vikings, je m'interroge un peu sur la fin de cycle Mike Zimmer, sur Kirk Cousins.
Kirk Cousins qu'ils ont prolongé, je crois, en plus, hein, avant la saison.
Oui. Non, je sais bien, mais j'ai peur, tu sais, que ce soit Cousins ou Zimmer en entraîneur, on soit avec ce genre de coach, joueur qui ont un certain palier. Ouais. Ni mauvais, ni très bon. Mmh. T'es toujours dans ce moyen plus et qu'il manque le petit truc, quoi.
Jaguars 16, Lions 34. En parlant de petits trucs qui manquent, là, il y en a pas mal avec ces deux équipes. Les Lions ont fait le boulot. Cette fois, ils ne se sont pas fait remonter. Déjà, c'est bien. Ça reste difficile de s'enflammer parce que c'est les Jaguars en face. Victoire solide, c'est toujours bon à prendre pour Détroit. Est-ce que Détroit tient un truc avec DeAndre Swift, 116 yards de touch dans nos sols? Eux qui cherchent un coureur depuis toujours.
Personnellement, je vais encore attendre avant de m'enflammer pour un coureur à Détroit. Franchement, 3 matchs, ça me suffit pas. Mais oui, ils montent de belles choses. Je sais pas, peut-être qu'ils s'inspirent un peu d'Adrian Peterson, hein, qui lui apprend 2-3 techniques pour être un bon, peut-être qu'un mentor, ça l'aide. Mais bon, je vais encore attendre. Et puis de toute façon, de manière globale, Détroit, je vais attendre pour me dire que ça y est, ils ont enfin trouvé la voie, parce que des débuts de saison corrects de Détroit, on en a vu quelques-uns ces dernières années, avant que ça retombe.
Oui, bon là, de toute façon, le début de saison est même pas correct. Hein, de toute façon.
Oh, là, quand même.
Ils sont à 3-2, non ?
2-3 ? Je vais envoyer Alain, mais bon. Non, le début de saison de Détroit, il n'est pas catastrophique. Malheureusement,
ils sont à 2-3.
Ouais.
Ils sont à 2-3, mais il y a ce match contre Chicago qui les plombe alors qu'ils dominent quand même 3 quarts temps et demi. Non, c'est pas mauvais ce qu'on voit de Détroit. Après, bon, contre Jacksonville, voilà, la défense était tellement aux fraises que de toute façon, ouais. Stafford, il pouvait lancer sur une jambe, les yeux fermés, une main dans le dos. Bon, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, de toute façon, voilà, après Jacksonville, on connaît les difficultés. Et ouais, du côté de Détroit, je le répète, hein, en attaque, le retour de Kenny Golladay fait le plus grand bien. Et en effet, si en plus il y a un jeu au sol qui devient un peu complémentaire avec notamment un binôme dangereux, bon bah ouais, ce sera une équipe à surveiller. Mais ce qui m'inquiète un peu pour Détroit, c'est qu'il y a un calendrier de fin de saison qui va être un peu bâtard pour eux. Et dans une période où Patricia est fragilisée, ça peut être à suivre. Mais non, je ne serais pas aussi sévère que toi sur le niveau global des Lions depuis le début d'année.
Bon, et ben ils se testeront contre les Falcons la semaine prochaine, justement.
Mmh. Ah bon, dommage.
Ah bah alors là, ça c'est le match voilà. De tous les. Voilà.
Alors les Jaguars viennent de perdre contre les Lions.
Je conseille aux gens déjà de ne pas le mettre dans leur combiné celui-là parce que
clairement.
Ça sent la.
Ouais, clairement.
Ou alors mettez au moins 80 points.
Les Jaguars viennent de perdre contre les Lions, les Texans, les Bengals et les Dolphins. Je sais que Greg t'aime bien étalonner les équipes sur contre qui elles ont joué. Ouais. Là, je pense qu'on est pas mal en termes d'étalonnage. Est-ce que c'est fini la hype Gardner Minshew? Parce qu'il arrose beaucoup, mais c'est plus vraiment sur l'efficacité là quand même.
Ouais, mais bon, après, il est pas. J'allais dire, il n'est pas aidé, pauvre garçon. Mais oui, en l'occurrence, c'est sûr. Malheureusement, oui, t'as pas de défense, t'as une attaque qui continue de malgré tout de se chercher. Il a pas de vrai tight end dans une ligue où c'est quand même devenu entre guillemets la norme. En tout cas, avoir une bonne soupape de sécurité plein centre, c'est quand même une bonne chose. Un corps de receveur qui reste jeune, un James Robinson qui est pas forcément, même s'il a montré de bonnes choses en début de saison, à mon sens, ce sera peut-être pas sur la durée un top running back dans la ligue. Donc ouais, non, il y a des choix qui sont parfois un peu curieux, comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Mais je trouve qu'il y a une bonne base sur laquelle travailler. Après, est-ce que s'il y a réorganisation de l'organigramme avec éventuellement le départ et du GM et du head coach à la fin de la saison, on voudra le garder et pas être tenté par un top quarterback? Ça, c'est autre chose. Mais ouais, je sais pas si Minshew est l'un des principaux problèmes de Jacksonville, en tout cas en ce début de saison.
Tu vois, Greg, tu décris une situation qui ressemble à celle des Jets, mais où les gens s'insultent pas et où ils envisagent l'avenir plus sereinement.
Ouais. Bah ouais, enfin, Caldwell est pas vraiment dans la situation de Douglas, mais bon, on va pas lancer le débat.
C'est vrai. Bon, Raphaël, Gardner Minshew, ça.
Oui, non, je rejoins Greg. Je pense pas que ce soit le principal problème. On a eu, notamment sur ce match-là, un play call offensif un peu étrange de Gruden, hein, qui a très très vite oublié le jeu au sol, peut-être un peu trop vite pour le coup, malgré le fait que Robinson n'avançait pas beaucoup. Enfin, bon, je sais pas. Et en même temps, les erreurs qu'il faisait déjà l'an dernier restent présentes. Donc, je le vois pas particulièrement progresser. Est-ce qu'il a vraiment les épaules d'un quarterback numéro 1? J'ai un peu de doute. Je sais pas.
On termine avec les Giants 20, Washington 19. On n'a rien contre les gens qui tentent des conversions à deux points pour gagner. On l'a déjà dit avec Raphaël, surtout quand c'est dans un match comme celui-là. Hein, on n'avait pas besoin d'une triple prolongation, même si ça n'existe pas en NFL. Donc, merci André Vera. New York gagne son premier match. Alors, Raphaël, c'est ton ancienne équipe de cœur. Il y a toujours un petit dilemme. Daniel Jones est à 12 sur 19, 112 yards, un touchdown, une interception, 240 yards au total en attaque. Est-ce que ça t'a enflammé? Est-ce que tu vas retourner acheter un maillot bleu? Est-ce que ça y est? Tu es reparti, quoi. Première victoire de l'ère Joe Judge.
Pour 240 yards, non, je crois que ça va être suffisant pour m'enflammer, hein. Non, mais c'est les Giants qu'on voit depuis le début de saison, hein. L'attaque est franchement mauvaise. Heureusement qu'ils ont une défense qui leur permet de rester dans le match, qui profite aussi bien d'une autre attaque très mauvaise en face. Hein. C'était deux très mauvaises attaques qui se faisaient face, donc c'était clairement pas le match offensif à suivre. Bon, voilà, je trouve pas qu'on ait appris grand-chose sur ces deux équipes dans ce match. Hein,
J'aurais dû couper avec un son de Kaamelott de Caradoc qui disait de la merde. C'est ce que, enfin, on le sait, quoi, tu vois. Tu l'as dit, hein, c'est la défense qui marque le touchdown de la gang côté New York.
Ouais, mais qui est, pour le coup, qui est une bonne surprise pour New York. Ouais, franchement, je pense que beaucoup de spécialistes et même des fans new-yorkais s'attendaient pas à ce que leur défense fasse belle figure comme ça après 6 semaines. Alors, est-ce que ça va durer toute la saison? J'en sais rien. Mais t'as la recrue James Bradbury, cornerback, qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Enfin, c'est quand même la petite surprise côté New York et qui est pas mauvaise de se dire que l'an prochain, ils peuvent déjà au moins repartir avec une défense à minima correcte. C'est en termes de reconstruction, c'est déjà sympa, quoi.
Oui, non, je parlais offensivement, hein, surtout pour dire que c'était assez affreux à suivre. Greg, Kyle Allen, c'est pas la solution visiblement au poste de quarterback, donc ça va être la draft pour Washington.
Ça en prend la direction, ou alors peut-être un quarterback qui sortirait d'une équipe, c'est un peu surprise. Type les Jets qui se débarrasserait de Darnold, peut-être, je ne sais pas, à surveiller. Mais là, je pense que de toute façon, Haskins a plus l'air d'être le choix prioritaire. Allen, on savait que ça allait être pour dépanner. Et Alex Smith, il n'y a pas une date de péremption très très éloignée, malheureusement pour lui. Donc, ouais, je pense que ça va pas durer. Il va falloir reconstruire au plus vite du côté de Washington. Tu vois, là, pour le coup, la conversion de points me dérange pas du tout, en l'occurrence, testé par un record.
Ah, on est d'accord.
Là, je comprends, en l'occurrence.
D'accord.
Voilà. Mais, oui, non, voilà. De toute façon, le problème qui va se poser, c'est que oui, ils seront sûrement top 5 de la draft. Maintenant, est-ce que tu dois prendre qu'un quarterback? Je suis pas sûr. Offensivement, c'est tellement le marasme qu'il y aura tellement de directions. Mais oui, ça commencera forcément par un quarterback.
Messieurs, breaking news.
Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York.
On a parlé de Dolphins, on se demandait s'ils étaient une équipe différente de l'année dernière, ces dernières semaines. Et bien maintenant, ils seront une équipe différente. Tua Tagovailoa est leur nouveau quarterback titulaire selon ESPN pendant que nous enregistrions. Tua Tagovailoa est nommé titulaire. Alors, pas officiellement encore une fois, c'est ESPN qui le rapporte au moment où on se parle. Donc là, il y a un nouvel intérêt à suivre cette saison des Dolphins quand même, parce que c'est ça la deuxième étape normalement de leur reconstruction, c'est de lancer Tua Tagovailoa. Grégory, je vais revenir vers toi évidemment, puisque tu es le seul de nous qui l'a vraiment vu jouer.
Bah, vous avez vu le week-end dernier, non?
On l'a vu lancer
deux
passes.
Ouais. Deux minutes.
On l'a vu lancer d'ailleurs, toujours aussi surprenant, un quarterback gaucher sur le moment, ça.
C'est vrai.
Ça surprend un peu.
Donc, Grégory, il est gaucher. Il a déjà une hanche en plastique, si j'ai bien compris.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui le différencie de ma grand-mère? Parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop de similarités.
Non, en tout cas, alors, c'est vrai que son grand problème à Alabama est ce qui lui a coûté un peu cher. En fait, il nous a fait une RG3 un peu précoce. Hein, c'est-à-dire qu'il avait cette explosivité, ce profil double menace qui, malheureusement, dès le college football, lui a dit « Bon, maintenant, tu vas te calmer, garçon ». Mais maintenant, d'un point de vue passe, il a quand même une rapidité d'exécution qui va être à surveiller. Il arrive quand même à identifier ses cibles très rapidement. Bon, après, c'est difficile de mettre de côté le fait qu'il était à Alabama où ces dernières années, il y a quand même des receveurs quand même assez détonnants et capables de se libérer très rapidement. Parce qu'il a quand même joué par exemple avec un Jerry Jeudy, un Henry Ruggs. Mais bon, le talent, il est indéniable. C'est un joueur qui arrive à faire briller notamment ses tight ends. Et voilà, même si je pense qu'il va falloir revoir un petit peu son jeu en NFL, parce que en effet, je suis pas sûr qu'il pourra autant courir qu'il pouvait avoir tendance à le faire du côté de Bama. Ouais, il y a quand même un profil intéressant et qui colle notamment à cette attaque de Miami qui est beaucoup plus explosive, qui a l'air de trouver une certaine carburation avec Chan Gailey, un jeu un peu plus soutenu en termes de vitesse, et je pense que ça peut lui contenir sans forcément l'exposer, surtout que la ligne offensive a l'air de vraiment bien se développer, les jeunes montrent de bonnes choses, donc ouais, non, pourquoi pas. Écoute, ça me paraissait pas essentiel de se débarrasser dès maintenant de Fitzpatrick. Maintenant, si Tagovailoa montre de bonnes choses à l'entraînement et que les Dolphins se disent bah autant tenter le pari maintenant à 3-3 avec un calendrier qui est pas non plus inabordable, bon, à voir.
Et ça commencera par un joli test, parce que comme Alex Smith avait voulu tester son genou contre Aaron Donald, Tua Tagovailoa testera sa hanche contre Aaron Donald, puisqu'il joue les Rams hein, ce dimanche. Donc ça commence quand même costaud. Hein. Il va commencer avec Rams, Cardinals, Chargers, Broncos, Jets, ça se Bengals. Derrière, c'est un peu plus soft. Ils auraient presque pu attendre une ou deux semaines.
Oui, c'est pour ça. Encore une fois, ça me paraît un poil rushé, mais bon.
Pourquoi pas? Pourquoi bon, pas. Après, en tout cas, c'est…
Visiblement, ils attendaient surtout de savoir si physiquement…
Peut-être.
Ouais. Voilà, il pouvait à peu près se mouvoir dans la poche. Bon, visiblement, les quelques minutes contre les Jets, ça les a rassurés.
Bon, et puis Ryan Fitzpatrick qui avait prévu de donner le flambeau, donc voilà, bah, c'est...
Ouais, même Fitzpatrick, enfin, tout le monde a vu l'image où quand toi est rentré sur le terrain ce week-end, qu'il a levé les mains pour que la foule l'applaudisse. Enfin, on sent que Fitzpatrick, c'était un bon gars qui le soutenait, oui, et qui savait très bien qu'il était là juste pour faire
le coup. Il a 37, 38, Fitzpatrick, ouais, maintenant.
Quelque chose comme ça, ouais.
Ah, ouais, bah, attends, vu ce qu'il a montré, je serais pas étonné de le voir signer
attends,
ailleurs.
Attends, il va rebondir.
Je suis pas en train de te dire que le mec, il est cramé de chez cramé, hein. Il est pas au barbecue, hein. Mais bon, en attendant, oui, je pense qu'il se doute que de toute façon, il jouera pas pendant, il sait que l'avenir de cette franchise, c'est censé être Tagovailoa, donc.
Oui, bon, non, mais je veux dire, c'est qu'on, par comparaison, tu vois, à New York, je vois un Joe Flacco bien moins sympa avec Darnold.
Oui, enfin bon, oui, d'accord.
Voilà,
oui.
Non, mais.
Pas les, oui, on est d'accord, c'est pas les mêmes mentalités, oui.
Voilà.
Après, si je peux me permettre, hein, on n'est pas à l'abri de revoir aussi Ryan Fitzpatrick cette année. comme le dirait le conseiller de ma mutuelle, un accident est si vite arrivé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une garantie supplémentaire?
Oui, bon, oui, bien sûr, tout à fait.
Voilà.
Ouais.
Hein, donc. Et voilà. Déjà enregistré par tous les fans de Miami qui seront prêts à le repasser à la moindre.
Voilà. On termine avec les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine, je vous laisse commencer. Allez, Raphaël, c'est parti.
Eh ben, on en a un peu parlé en début de l'émission. Moi, c'est la paire de linebackers, de middle linebacker des Buccaneers, Devin White, et Lavonte David. Notamment Lavonte David, qui a longtemps été un peu un des joueurs de l'ombre de cette ligue. Alors, à mon sens, ça faisait quelques années qu'il était au niveau des Luke Kuechly et Bobby Wagner. Voilà, donc ils ont été énormes cette semaine. 2,5 sacs à eux deux, 5 plaquages pour perte. 4 quarterback hit, présents dans toutes les phases du jeu. Donc, ils sont partis pour mener loin les Buccaneers.
Grégory.
Ouais, ça aussi, on en parlait plus ou moins. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, mon top, c'est quand même la victoire des Giants. J'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est une équipe qui, malgré leur bilan, passait pas loin assez souvent cette année. Ils n'ont pas été ridicules sur toutes les semaines de compétition, malgré le niveau offensif global. Donc voilà, même si c'est une victoire un petit peu par la peau des fesses sur une conversion à 2 points loupés face à une équipe aussi médiocre, voilà, c'est bon à prendre et je pense que c'est à suivre pour le reste de la saison.
Pour moi, ce sera Ryan Tannehill. J'en ai parlé aussi un peu pendant l'émission, mais à 12 secondes de la fin, lancer ce touchdown plutôt que d'arrêter le chrono, je trouvais que c'était de l'action de la semaine. Donc, et puis, très belle réception d'AJ Brown. Donc voilà, félicitations aux Titans. Ton flop, Raphaël.
Eh ben, on l'a très vite mentionné, mais moi, c'est Jared Goff. Vous parliez tout à l'heure de l'échelle Alex Smith potentiellement. Voilà, sur ce match-là, moi, je suis désolé, mais je l'ai trouvé absolument affreux. Des saucisses lancées sur des receveurs totalement libres, des difficultés de lecture. Enfin, voilà, je trouve vraiment que Los Angeles est en train de perdre un peu de temps avec Goff.
Eux aussi doivent avoir un quarterback.
Ouais. Ouais, bah eux aussi, ouais, non, mais je sais bien, c'est le drame de ma vie, je trouve qu'il n'y a pas assez de
quarterbacks. Ah ouais, Raphaël, les quarterbacks, c'est une histoire d'amour. Hein.
C'est ce que j'allais dire, de toute façon, où est-ce qu'ils vont le trouver? Il n'y en a pas 30 au milieu.
Non, mais je sais bien où est-ce qu'ils vont le trouver, mais bah, sincèrement, je trouve qu'avec les receveurs qu'ils ont, les tight ends qu'ils ont, je trouve que la prestation, elle est trop médiocre. Elle est médiocre en partie à cause de Jared Goff, donc. Voilà, il en est déjà à 3-4 ans dans la ligue.
C'est dommage, je t'aurais rejoint l'année dernière. On aurait remis Blake Bortles au premier plan. Ça aurait fait tellement plaisir à Alain. Et bon, malheureusement, c'est fini tout ça.
Greg, ton flop.
Je retiens juste que Raphaël a dit, on en a rapidement parlé. J'ai juste dit qu'il était peine à jouer, Jared Goff, à part ça.
Oui, bah voilà.
les flops, j'en ai quelques-uns. Bon, j'ai déjà parlé de Zach Taylor, hein, mon grand copain. Non, j'insiste là-dessus, mais encore une fois. Les Pats, on peut pas proposer aussi peu, même avec les blessures et le casting global, on peut pas proposer aussi peu que ce qui a été proposé, même face à une vaillante défense de Denver. Donc, je peux pas ne pas les mettre dans les flops de cette semaine, à mon sens.
Ouais, bah, moi, je vais rester dans la même division. On en a parlé longuement aussi, donc je vais pas terminer longtemps. Mais les Jets, moi, je comprends pas qu'on laisse une franchise s'auto-détruire à ce point et de cette manière-là, parce que ça devient tellement ridicule que. Bon,
on peut en faire un débat jeudi si tu veux.
c'est Raphaël et Raoul, je crois, jeudi.
Il a pas l'air spécialement motivé. Je ne lis pas l'emballement sans son visage.
Non, mais ouais. Non, et encore, heureusement que cette saison, heureusement qu'il n'y a même pas les fans au stade, parce que ça serait même irrespectueux pour les fans au stade s'il y avait des gens qui se déplaçaient pour voir ça, franchement.
Mais on peut décider du débat aujourd'hui, hein, pour voir si Raoul écoutera d'ici jeudi.
On en a déjà décidé. Je te rappelle, c'est le moment du teasing, tu as raison. On va parler de ceux qui peuvent concurrencer les Chiefs en AFC. Donc on fera un petit point sur les chances des Steelers, des Ravens et des Titans notamment.
D'accord.
Ceux qui peuvent concurrencer les Chiefs. Et je te le dis d'autant plus que le visuel est déjà prêt. Donc je remercie Ben, notre graphiste.
Vivement qu'on parle du débat le 11-0 est-il possible pour Atlanta ? J'ai hâte de le voir.
C'est ça, Atlanta, l'année du titre, point d'interrogation. Merci beaucoup messieurs, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 370 du podcast Hoge en Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine il y a encore beaucoup de monde: Quentin, Mavs41, Griff26, Ake Josué, Stéphane, Phoenix Light et Sébastien. Merci beaucoup à tous de votre soutien et on espère que vous appréciez tous les stickers, les magnettes et tout ça et tout ça, et encore une fois il y en a plein qui arrivent. Merci donc de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux: Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier. Il va y avoir un concours d'ailleurs qui arrive demain, tenez-vous prêts. @Raphaël_TDA et @TiloRadioSa pour mes deux camarades sur Twitter, @AlainMatei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Grégory.
Et ben merci à tous les deux.
Un plaisir.
Très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine. Ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.